qui aurait pu prédire ?
Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote.
Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit.
Une bonne vieille viande ici chez nous.
Le 1000e tour commence ce soir.
Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes.
Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour. Je suis avec trois invités aujourd'hui qui sont face à moi et que je vais vous présenter de ma gauche à ma droite, comme d'habitude. Eh bien, à ma gauche, il y a Nathalie, bonjour.
Bonjour, tu as raté l'occasion de dire face à trois invités qui sont furax, et non, tu as juste dit face à moi, et je suis très déçue.
Ah, c'est vrai, oui. Ah, t'as cru que j'allais dire ça?
Bah ouais, t'as commencé par un F, je me suis dit, allez, il va dire furax, et non.
Mais vous êtes furax, en fait. En fait, je suis avec furax.
Exactement.
On est furax, absolument.
On va parler beaucoup de cet événement à venir. Furax, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, à la fois de celui de l'année dernière et de celui qui allait venir. On en a parlé avec Salomé et Bibi, qui était là il n'y a pas si longtemps. À côté de toi, il y a Cosima, salut.
Salut.
Cosima, qui es-tu? Bonjour.
Qui je suis? Bonjour. Je suis... Alors à la base, j'étais un coup de main sur Furax.
Un petit coup de main sur le premier Furax.
Petit coup de main sur Furax. Et aujourd'hui, je gère la communication de l'événement et plein d'autres choses. C'est beaucoup de choses, un événement à gérer. Donc voilà, je mets plein de pierres à l'édifice, on va dire.
La partie com.
C'est ça, la meuf de la com.
La meuf de la com.
Mais pas que, hein, c'est
vrai.
C'est pas un nom, on dirait un nom de blog...
Je crois que c'était un blog, ouais.
Ça me parle.
Oui, oui, il me semble que c'était un blog.
Soit c'était un blog,
dans l'internet.
Soit ça fait très nom de blog. Oui, dans l'internet de
d'avant.
2008.
C'est ça.
Ouais. Et à côté de toi, il y a Joule, bonjour.
Bonjour, je reviens alors que j'étais dans le pilote de
et
l'émission,
oui,
figure-toi.
Mais oui.
Et oui.
Donc là, jusqu'au prochain, tu auras été dans le premier et le dernier épisode avec une liaison
absolument,
qui n'existe pas, mais je suis exténué de fatigue. Vous le comprendrez d'ailleurs dans cet épisode. Je pense que vraiment...
Il nous tarde.
Ça va être très très compliqué à tenir.
Je pense que tu vas être encore plus fatigué après, quand on aura fini nos blagues.
Ah bah largement, mais par contre, allez-y, du coup, c'est roue libre. J'ai hésité à dire, juste, je vous donne les micros, moi je vais faire une sieste, vous faites l'émission.
Let's go. Parce que du coup, moi je me suis même pas présenté, j'ai juste fait une blague.
Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Bonjour, moi c'est Nathalie et ma spécialité c'est les jeux de mots nuls.
D'accord.
C'est exactement ça.
Voilà.
Nickel.
Merci. J'ai pas besoin de faire plus finalement.
Non, pas besoin.
C'est
voilà. Tu étais dans un épisode il y a pas si longtemps.
C'est vrai.
Que ça, c'était avant les fêtes de Noël. C'était un peu l'épisode de fin d'année.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, c'était l'épisode de fin d'année et j'avais fait le petit karaoké, enfin la petite session
incroyable.
De chansons de chanteurs politiques.
C'est absolument vrai, c'était phénoménal.
Vite à réécouter cet épisode.
Ah, vous aviez fait Je ne suis pas woke du coup?
Non,
c'était pas encore sorti.
Je sais pas. Si
bah, il a
sorti.
Dit chanteur politique. Moi, je pense
ça
à ça directement. Quoi.
Non, mais je t'invite à écouter cette séquence. C'est dans l'épisode 14. Hop, je rajouterai au montage. Le...
Allez. Ah oui, je me souviens du numéro de cet épisode.
Ah,
absolument,
oui.
Bien sûr.
Celui-là, oui.
Oui, oui.
Bon, vous cherchez. C'est l'épisode avec Nathalie et MVCDLM.
Waouh.
Voilà.
Tu l'as prononcé du premier coup. Je suis très impressionné.
Bien sûr.
Moi, je suis dyslexique. Je peux pas faire ça.
C'est ma vie, c'est de la merde.
Bah oui. Oui, mais oui, mais ouais. Oui. Mais...
Ah,
oui,
tu
l'avais
jamais
fait gaffe, non. Tu l'avais jamais eu. Non, mais même avec le mémotechnique, moi, c'est Meslesne.
Meslesne.
Meslesne. Absolument. Okay.
On l'appelle, dans le milieu d'Internet, on l'appelle
Salut
Guillaume.
Oh là là. 10 secondes avant que ce soit lâché, le pauvre. Mais c'est vrai.
On salue. Bien évidemment. Alors. Je vous ai invité pour parler de l'événement à venir sur Twitch notamment et aussi du pré-événement qui a été le passage de Furax en tant qu'association qui est quand même qui est le petit événement du mois dernier. Officiellement, Furax, c'est une association. Alors, qui veut d'abord présenter qu'est-ce que c'est Furax à la base? Qui,
oh waouh, je me suis fait regarder immédiatement.
Les deux, on a regardé Nat.
La vache.
Alors qu'en vrai, c'est Joule qui a proposé à Nat en premier.
Oui, c'est vrai, c'était l'an dernier.
Non, plus.
Bah si, c'était en 2023.
Ouais. C'est en 2022 que tu m'as approché.
Ah, oui, parce qu'on l'a fait en...
Et oui.
Et oui.
Et
oui.
Vas-y.
En l'été 2022, c'est
voilà.
Ça. J'étais allée chez Nat et je lui avais dit, viens, on fait un événement politique, tu vois, genre comme les Z-Events, mais féministe et un peu plus engagé, vénère et tout. Et du coup, on a lancé ça un peu avec Nat et on a pris une boîte de prod. On a eu un peu de coup de main. J'ai demandé à Cosima, par exemple, un petit coup de main.
Vraiment, juste pour les réseaux sociaux.
Voilà, et du coup, elle a porté le projet sur ses épaules comme Jaja. Au final, on a fait ça en 3 mois à peu près.
Ouais.
On n'était pas très nombreux et nombreuses.
Ah, quand même, on a une équipe qui a grossi au fur et à mesure.
C'était surtout sur la fin qu'on avait du mal.
Voilà, sur la fin, on était bien une dizaine, donc c'était quand même très honorable.
Alors que là, on est une dizaine dès le début.
Ouais. Ouais.
Ce qui fait que c'est un peu plus travaillé cette année.
C'est ça.
On a pris en compte un peu les critiques qu'on avait eues sur le premier événement. Et du coup, bah, le fait que ce soit une association, ça nous permet d'avoir des adhésions qui nous aident, entre autres, à financer le projet de cette année, en plus des sponsors, parce que bah, ça demande beaucoup de moyens, figurez-vous.
Ouais. Ça nous garantit aussi une certaine indépendance. C'est aussi bête qu'on a une carte bancaire, on a un compte pour faire nos propres dépenses, gérer nos budgets, etc. Donc voilà.
Parce que au final, effectivement, le but premier, donc, c'était de créer un Z Event plus politisé, mais c'était aussi un peu de faire beaucoup de. En fait, on va vraiment parler beaucoup de sujets qui tournent autour du sexisme, du harcèlement en ligne, etc. Des sujets qui vraiment ne sont pas beaucoup abordés sur Twitch de manière générale et qui ont désespérément besoin d'éducation. Et du coup, l'idée, c'était aussi là où d'autres événements caritatifs font pas autant ça. Nous, il y a beaucoup de tables rondes, il y a beaucoup d'intervenants, il y a vraiment pas que des streamers. On fait venir des gens de pas mal de bords différents. La dernière fois, on avait des juristes, on avait des psychologues et tout, qui étaient les bénévoles de Elles Imagine, qui est donc l'association qu'on avait soutenue l'année dernière. Et du coup, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une valeur ajoutée en termes d'éducation et de connaissances vraiment offertes à tout le monde. Genre, justement, tout ce qui tourne autour du harcèlement et du sexisme, c'est beaucoup de méconnaissances chez les jeunes. Et là, du coup, il n'y a vraiment pas d'excuse. On vous donne toutes les ressources gratuitement, quoi.
Voilà. On peut peut-être préciser que cette année, l'association qu'on soutient, c'est Féministes versus Cyberharcèlement, et que du coup, ce sera un peu plus centré sur le cyberharcèlement cette année.
Mmh. Ouais. L'idée, surtout aussi, d'ouvrir les adhésions, se constituer en asso. Nat, tu l'as dit, c'est on crée du contenu pour les publics, les communautés, mais aussi les créateurs et les créatrices de contenu. Mais aussi au-delà de l'événement. Donc, l'ambition, c'est de proposer du contenu pendant Furax, mais ça nous donne aussi un petit peu de ressources pour en proposer en dehors, donc à voir quelle forme ça prendra, mais voilà, c'est se constituer en asso aussi pour être invité par exemple,
ou je vois.
Proposer aussi nos services, on va dire, nos compétences.
Même l'événement, en fait, au final, avec le côté table ronde, etc., je le vois un peu comme un festival citoyen en ligne, plus qu'un événement caritatif à la The Event.
Il y a un peu de ça, parce que justement...
Avec une programmation de débats, de tables rondes, de...
Bah, en fait, je trouve que c'est... Enfin, dans l'idée, c'est cool de parler de plein de choses qu'on n'entend pas, de mettre des combats en avant et tout. Mais c'est aussi bien d'inviter des militants, des militantes, pour avoir aussi des moments plus légers, tout en profitant du fait qu'on les présente à une certaine audience. On présente qui ils sont, leur travail, leur asso. Et je pense que ça fait aussi un petit peu ce côté, ouais, peut-être un petit peu festival, mais ça se veut aussi festif et
à suivre du coup, sur Twitch, et on va avoir la chaîne Twitch, c'est On est Furax,
ouais,
c'est
tout, ça tous les réseaux, On est Furax
tout attaché, sur cette chaîne Twitch qui est, on va dire, l'accueil, la maison mère,
l'épicentre
de l'événement. On va avoir tout ce qui est table ronde, etc., et autour de ça, il y a des streameuses et des streamers qui vont streamer depuis leurs chaînes respectives, et qui font leur propre programmation.
Complètement indépendamment.
Et donc après...
C'est ça qui est plus côté Z-Event, qu'on disait au début, c'est qu'on a aussi à côté le petit marathon de stream où, pour le coup, les créateurs et les créatrices de contenu font absolument ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de parler de harcèlement. S'ils veulent jouer à Mario Kart, ils peuvent. S'ils veulent faire d'autres trucs, ils peuvent. On n'a pas de ligne directive pour les créatrices de contenu.
Puis il n'y a pas la dimension marathon extrêmement épuisant aussi. Enfin, c'est un marathon caritatif, mais je veux dire, si quelqu'un nous dit moi je peux pas être là tous les jours, ou je peux pas être là pendant 24 heures d'affilée, on comprend. Et il y a cette dimension aussi, on fait un peu plus attention à la santé des gens.
On a des PC tournants d'ailleurs pour s'il y a des gens qui veulent venir qu'une heure.
Ouais, voilà.
Ah oui, ok, ouais.
C'est aussi un pan de l'organisation qu'on prend en compte et qui est relié au final aux valeurs globales de l'événement. On veut que les gens qui viennent participer à cet événement en présentiel, ils soient bien accueillis et surtout qu'ils aient envie de revenir aussi. Donc c'est beaucoup de travail pour garantir ça. Mais pour nous, ça fait partie des ingrédients qu'il faut pour faire un event cool, quoi.
Ok, voilà pour la présentation de Furax. On va sûrement en reparler par-ci par-là parce que c'est un épisode spécial. On va quand même parler d'actualité, bien évidemment. Dans l'actualité, qu'est-ce que j'ai noté de croustillant, parce que en ce moment ça croustille. Je sais pas si vous avez remarqué.
Je peux te tendre une perche, mais
en ce moment ça croustille. Vas-y, dis-moi.
On en a parlé en plus très récemment. Moi, je me remets toujours pas de ce chef, chef d'assemblée macroniste là, qui compte à main levée, qui fait genre c'est bon, 20-20, on annule, puis après il y a le recomptage des voix, et là ah bah non mince.
Je sais pas si on en a parlé dans le millième tour d'ailleurs, je crois pas, parce que j'en ai pas parlé effectivement.
Quand je te dis qu'on en a parlé, c'était il y a deux jours.
Ah oui, dans la vie, bien évidemment.
Mais vous vous connaissez dans la vraie vie?
Oui, en fait, des fois on se croise, c'est trop bizarre.
Donc cette histoire, c'est Jean-Marc Zulizi, et il a une histoire dans le millième tour, puisque vous suivez le millième tour depuis le début, c'est ce fameux gars qui s'était fait virer de la fête de la fraise par des manifestants et qui avait porté plainte contre un des manifestants parce que pendant toute l'époque où il y avait des casseroles, les gens qui tapaient sur des casseroles pour lutter contre le 49-3, etc., enfin pour gueuler, lutter d'ailleurs, c'était l'exaspération, là, c'était on n'a plus rien, on va juste casser les couilles à chaque ministre en déplacement.
On n'a plus rien, ils nous l'avaient enlevé, ça. Il y avait les flics qui passaient pour vérifier que les gens n'avaient pas de casserole. Quoi. Ouais, c'était incroyable comme époque.
Ouais. 2023, grosse année hein, quand même. Hein. Et du coup, toute l'époque des casseroles, il y a Jean-Marc Zulizi qui est. Alors, je crois que c'est à Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises, ou non, Salon de Provence, mais c'est peut-être la même circo, je sais pas.
Possible.
Mais c'était à Salon de Provence. Il est venu en tant que député faire son petit tour à la fête de la fraise. Voilà.
Je rigole, mais il y a vraiment une fête pour tout.
Mais c'est pas juste un titre, c'est vraiment la fête de la fraise.
D'accord, ouais,
d'accord. Chez moi, il y avait la fête du cochon, tu vois.
Voilà. Ok. Bah écoute, j'ai l'impression que la fête du cochon, c'est 365 jours par an.
Allez, c'était la perche.
On est furax ou pas?
Et donc, il fait son petit tour. Évidemment, il y a mes genre 10 manifestants qui ont fait une casserolade, mais et avec des pancartes, mais ironiques, le soutenant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le soutenant à l'extrême, vraiment, comme si on était en Corée du Nord et qu'ils accueillaient leur grand leader.
Ah ouais.
En disant merci pour le 49-3, merci pour les retraites, on veut travailler plus, que des trucs comme ça, quoi.
Bien sûr. Ouais.
Et ils étaient derrière lui à faire ding, 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 merci, comme ça. Il a fini par courir, s'enfuir presque en courant, et donc il n'a pas visité la fête de la fraise.
Non.
Et pour ça, il a eu 14 jours d'ITT.
C'est très grave.
Je pense qu'il a trébuché en s'enfuyant.
Non, on a les images, on a tout.
C'est un problème ORL alors.
Non.
Non, mais c'est pour le préjudice psychologique.
Il estime avoir été agressé par des militants.
C'est la psychologue qui parle, bien sûr.
Il estime avoir été agressé par les militants. On a les images, on voit que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, au moins agressé psychologiquement.
Bien sûr.
Donc 14 jours d'ITT, plus il a porté plainte contre un des manifestants. Je pense que ça n'ira nulle part. Si ça se trouve, il n'a même pas vraiment porté plainte comme ils aiment bien faire. Je dépose plainte. Et puis, il a déposé sa plainte contre Blast. Enfin voilà, c'est lui, c'est Jean-Marc Zulizi, c'est lui qui présidait.
D'accord. Donc c'est une victime en toutes circonstances en fait.
Bien sûr.
Très beau palmarès en tout cas.
Et donc c'est lui qui présidait la commission commission sur l'environnement. C'était un débat par rapport au parc nucléaire français. Enfin, c'est à la limite le sujet est pas central dans cette histoire, mais effectivement en commission à l'Assemblée nationale, donc c'est comme des mini assemblées. Où les gens sont assis à des tables et il y a évidemment pas tous les députés qui sont présentés, mais théoriquement on a une représentation, on va dire proportionnelle à ce qui est représenté dans l'Assemblée, et on vote sur des articles de loi, etc. Tous les amendements se décident pas en hémicycle, et là c'était le cas, et il y avait un amendement déposé par LFI. qu'il a soumis aux voix, et comme c'est une petite salle, comme c'est pas grand monde, etc., en général, ça se fait à la main levée. Et donc, il a soumis aux voix, il a dit qui est pour, il a fait mine de compter, il a fait 20, qui est contre, 20, et en cas d'égalité, c'est le pour qui l'emporte toujours, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il a dit, bon, bah, 20 contre 20, c'est le contre qui l'a, l'amendement
le
est rejeté.
Qui, ouais.
L'amendement est rejeté. Et là, il y a eu des petites indignations dans la salle pour dire, à vue d'œil, j'ai pas l'impression qu'il y avait 20-20. Et lui insiste, a dit non, jusqu'à ce que Clémence Guettet de la France Insoumise
la meilleure
sorte un article 42 du règlement de l'Assemblée qui dit que si jamais il y a 10% de la commission qui souhaite recompter avec un scrutin nominatif où chaque député dit pour, contre et on compte un par un, donc c'est ce qui s'est passé, il a compté et il y avait 23 contre 18.
Je crois que l'article c'est 42 alinéa 9.
Oh là là.
Je crois.
Elle a bossé. Hein,
non, j'ai vu le clip. Mais en fait, quand il y a Clémence Guettet, moi je... Ah ouais. Je tunnel,
c'est tout droit.
Je tunnel. Ouais, Clémence Guettet tous les jours.
Mais du coup, en regardant la séquence, tu entends quand tu as retenu quand même l'audio.
Ouais. Je me souviens qu'elle a gardé un calme olympien.
Ouais.
Et ça vraiment, enfin le mec il est très hautain, en mode vraiment, il est en mode non c'est bon, on va pas compter.
Ouais, on enchaîne.
Et il les traite vraiment comme de la merde. Et elle reste extrêmement câble en mode alors non, excusez-moi, en vertu de l'article 42 alinéa 9, en fait, on doit recompter machin et tout. Et elle est ultra posée. Et en fait, le mec se met à bégayer parce que je pense qu'il s'attendait pas à ça.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que Clémence Guettet, elle dit c'est absolument pas pour remettre en cause votre présidence de cette commission. Et là, tu l'entends dire ça et tu fais c'est complètement ça.
Mais justement, elle a grave compris. En fait, si elle avait eu la moindre once d'agressivité, vu que le mec il en est à faire des 15 jours d'ITT pour une fête de la fraise, je pense qu'elle avait compris que là, il se serait mis un mois en arrêt. Elle a dit allez, je vais y aller très posément, très gentiment. Là, il peut rien faire. Là, il avait aucune attaque possible et imaginable.
Mais surtout les députés LFI qui étaient dans la salle, clairement, avaient l'air quand même assez sûrs d'eux pour dire non, on va recompter et je m'en lèche les babines de ce qui va se passer.
C'est pour ça qu'il a payé quand elle
déclenche le scrutin public et qu'en plus il fait une tête parce qu'il se tourne vers à sa gauche et à sa droite il y a le personnel de l'Assemblée en fait qui est là pour vérifier le bon déroulé par rapport au règlement,
oui,
etc.
Oui.
Donc il y a un moment où il se tourne, vraiment on a l'impression qu'il dit attends, elle a le droit là Et on lui dit oui.
Monsieur, elle m'embête.
c'est ça.
Et là, ok. Et... Bon, bah d'accord, bah, on va faire le scrutin alors. Et dans ses yeux, il y a quelque chose qui me dit.
Il sait ce qui va se.
Qu'il a chié.
Que s'il était sûr de lui.
Il sait très bien qu'il a fait exprès de mal compter en fait.
Ouais, bah oui.
Bah, bénéfice du doute, bien évidemment.
D'accord, oui, bien sûr.
Mais pour les gens de droite.
En tout cas, il arrête pas de dire il y a pas de doute et au moment où on dit on va recompter pour de vrai,
tu vois le doute dans ce
tu
cas.
Vois que au moins il y a un doute.
Ouais.
S'il y a pas de triche, au moins en fait il y avait un doute et il a fait genre il y en avait pas. Bref.
Ouais.
Moi je trouve que c'est incroyable parce que c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre à quel point notre système il est extrêmement faillible, parce que si Clémence Guettet était pas arrivée avec l'article exact, parce que en gros on en parlait, elle est en fait au début elle est en mode c'est bizarre, et en fait comme le mec l'ignore et lui dit non on enchaîne, il parle d'autre chose et elle en fait elle cherche du coup
que dans la séquence qu'elle tournait il y a 5 minutes qu'on jarté.
Et du coup elle a vraiment dû trouver le bon article pour pouvoir arrêter le mec, et en fait s'il y avait pas eu quelqu'un comme ça qui avait été aussi consciencieux ou aussi déterminé et qui avait juste fait merde, ou qui s'était même énervé et ça aurait porté le débat ailleurs, en fait c'était juste niqué en fait, et genre notre démocratie elle est juste une raison de plus d'être bafouée, et pour moi c'est un exemple vraiment ultra évident, tu vois, et ça me...
Puis assez flippant aussi sur le principe, quoi.
Mais ouais, genre, en plus, si le mec, il a pu faire ça sur un truc aussi important que des lois et tout, sur des trucs aussi importants, enfin...
Oui, il y a combien de commissions qui ont déjà failli à ce truc-là, quoi.
Je suis sûr que de toute façon, il y a des erreurs régulièrement, mais là, en fait, il y a eu vraiment un bidouillage manifeste qui était sous nos yeux, qui se voit. Après, cette séquence, elle est intéressante, parce que ça montre aussi le fonctionnement de l'Assemblée. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que l'Assemblée nationale, c'est juste les questions au gouvernement, quoi. C'est la séquence où tous les gens sont dans l'hémicycle à poser des questions au gouvernement, alors que l'Assemblée, ça fonctionne quasiment, pour y avoir travaillé encore une fois, ça fonctionne quasiment 24 heures sur 24 avec des commissions à droite à gauche, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent... souvent les gens qui disent qui partagent des photos de l'hémicycle avec on voit seulement 30 personnes assises sur 577
et il y en a qui font la sieste
et c'est, qui disent
c'est,
un, ouais,
c'est une photo de 2h du mat quoi.
Mais alors soit 2h du mat mais ça peut même être 14h un lundi pendant que en fait il y en a
ils sont tous en commission
ouais. Ils sont enfin voilà ça en fait ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'il y a pas fois des députés qui ont un absentisme absolument insupportable.
Mais c'est vérifiable en plus sur le site, c'est toujours intéressant à aller regarder.
Vous allez sur le site notamment nosdéputés.fr qui est très pratique à lire. Quoi ?
On va le vérifier, tu sais, notre circo.
Non mais en vrai, vérifiez ça. Vous allez sur le site nosdéputés.fr et vous regardez, vous avez les stats de tout, les présences relevées, les questions posées, les prises de parole aussi. T'en as qui sont là mais qui font la sieste et qui en fait tu remarques que jamais ils ont pris la parole, jamais ils ont proposé un amendement.
Et est-ce que tu peux écrire à ton député pour dire
Tu peux toujours écrire
bien
à ton
sûr.
Député.
Pour dire en mode vous êtes jamais à l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, t'as son mail et puis tu
le. Il y a le mail, en général il y a même le numéro de téléphone de au moins la permanence. Bien sûr que tu peux. Il y a l'adresse du courrier sur nosdéputés.fr, il y a à chaque fois les coordonnées et l'adresse mail.
C'est un site privé ou c'est un site public ça ?
Alors je crois que c'est une asso qui le tient, mais concrètement c'est des données que tu peux aussi trouver sur le site de l'Assemblée nationale, mais qui sont mises un peu plus facile d'accès quoi.
Oui, ouais. Elles sont plus modélisées
mais
sur.
Mais je veux dire, c'est pas l'État qui a fait ça quoi.
Non,
mais les données sont ouvertes.
Oui, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bah sinon, ils n'auraient pas eu le droit, t'imagines ? Ouais. Leur adresse privée et...
Vous n'êtes pas satisfait de votre député ? Voici son adresse. Son numéro de téléphone, l'école de ses enfants, son lieu de travail.
Bah après, c'est doxingdéputé.fr.
Sachant que maintenant qu'il y a la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Alors, les ministres, c'est sûr. Non, mais les députés aussi doivent faire une déclaration,
de
patrimoine. Et donc, tu peux voir leurs actifs bancaires, leurs possessions immobilières, notamment. Et
dans quel pays ils font de l'évasion fiscale, bien sûr.
Ça, il faut demander
à Mediapart.
Ah, d'accord. Ils ont l'info.
mais en vrai, les déclarations de patrimoine, c'est passionnant à lire. Je vous invite aussi à taper HATVP plus le nom d'un ministre et PDF sur Google et vous trouverez direct le lien pour avoir le PDF de chaque ministre. Et les comptes en banque, je trouve ça passionnant, surtout chez les ministres riches, c'est-à-dire à peu près tous les ministres. Les ministres riches, quand tu vois leur compte en banque, tu te dis mais ils font n'importe quoi. Genre nous, les gens normaux, on a quoi ? En général, on a un compte courant de base, un petit compte épargne.
Ouais.
Éventuellement, on peut avoir un compte sur une autre banque parce que on a.
T'as besoin d'une carte spéciale.
Ouais, carte spéciale, ou on a un livret jeune qui a jamais été fermé, qui était ouvert par nos parents, ou un compte commun avec son conjoint, ou un truc comme ça, quoi. Et puis, globalement, ça s'arrête à peu près là. Et tu vois des trucs où ils ont 10 comptes ouverts sur lesquels il y a 3 euros.
Quoi ?
3,58 € sur un compte. Sur l'autre compte, il y a ça. Et tu vois sur leur truc, leur premier compte courant, 68 000 € sur le compte courant. Mais qui a ça ? Qui a ça sur son compte courant et pas en épargne ? Mais ça, en fait, ils font n'importe quoi. Et en fait, ils s'en foutent parce que je pense que eux, ils ont assez d'argent pour considérer que leur carte, elle est limitée.
Oui, c'est la black card
pour leurs besoins, quoi.
Ils se posent pas de questions. Hein.
Et je me dis, mais vraiment, t'as des trucs comme ça. T'en as d'autres qui ont pas du tout d'argent. Tu te dis, d'accord.
Mais oui, c'est pas.
Mais où ton argent dit, moi, tout. Bah, je veux pas dire, mais Macron a moins d'argent que Poutou, hein.
Non, mais c'est ça, oui.
Officiellement.
Oui.
Non, mais comment il s'appelle le... Jean Lassalle, c'était Jean Lassalle qui disait qu'il n'arrivait pas à s'en sortir avec ses 5000 boules par mois, que c'était pas assez, qu'il était à découvert, machin. Mais qu'est-ce que tu fais ?
Il nous a fait une Patrick Balkany, quoi.
C'est vrai.
Non, Isabelle Balkany, pardon.
Oui. Non, mais enfin, moi, je me demande, parce que genre, si je touchais 5000 balles par mois, je serais mais royal.
Non, mais on sait
faire attention, quoi.
Bien sûr, on sait tous que c'est pas les pauvres qui savent pas gérer leur argent.
Ah bah ça,
on sait tous.
Mais il y avait eu des histoires avec Claude Guéant aussi qui. Claude Guéant, dans l'enquête sur des financements de je ne sais même plus quoi, je vais pas dire de bêtises, mais il y avait eu un gros problème de gestion d'argent liquide chez Claude Guéant, parce que quand ils avaient, quand les services financiers avaient enquêté sur lui, ils voyaient qu'en fait, il payait tout le temps en liquide, tout en liquide.
C'est pas louche,
et
ça.
Il achetait, il achetait officiellement des tableaux en liquide à des plusieurs milliers d'euros et il revendait des tableaux. Et en fait, bon, bref, il vivait en liquide, mais en fait, sur son compte, pendant genre 5 ans, en tout et pour tout, il avait retiré 500 euros. Donc,
bizarre, non?
Donc, étrange. C'est-à-dire, le gars vit uniquement avec du liquide. Mais apparemment, le liquide ne vient pas de retrait bancaire.
Les
donc...
dealers,
trop bizarre.
Ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est que des trucs bizarres. Ouais,
moi,
ouais.
Ce que je trouve vraiment terrible pour lui, c'est que du coup, il pourra jamais être énorme et sec. Parce qu'il pèse tout
le
en
liquide.
Yes! Yes! Let's go! Let's go!
Superbe.
Allez, merci. Non mais par contre du coup bah, je pense que c'est quelque chose de parfaitement compréhensible. En fait je pense qu'il fait des petites heures sup au McDo et il doit être payé directement en cash de manière très légale.
En cash,
bien
connu,
sûr
ça,
bah, c'est connu voilà. Bah, donc je pense que c'est un petit bail vraiment classique et il y a pas besoin de s'inquiéter quoi.
Du coup ce serait en fait moi j'aimerais bien que Macron le nomme ministre juste pour qu'il soit obligé de faire une déclaration
puis comme ça Mediapart sort 50 articles par jour
oui, bah, y a...
et on a un nouveau speedrun de ministère,
il y a pas de souci, tapez Claude Guéant sur Mediapart et régalez-vous hein, c'est comme...
et bien sûr abonnez-vous à Mediapart bien sûr.
Toutes les affaires en question ont un lien avec Nicolas Sarkozy hein, Claude Guéant enfin c'est
oui.
Pour ça que je sais plus si c'est genre l'affaire libyenne. En fait, le problème, c'est que des affaires liées à Nicolas Sarkozy, il y en a tellement que je sais plus c'est lesquelles, mais c'est une d'entre elles.
D'accord.
Yes.
Donc, voilà. Dans l'actualité, il y a également y a Bruno Le Maire qui a annoncé des économies. Eh oui, il est ministre de l'économie. Donc,
il va taxer les ultra-riches.
Bah non, ce serait trop dommage.
Ah.
Non, il leur demande
de faire
des
taxer les grosses entreprises.
Non.
Ah,
mais justement alors,
sur quoi est-il en train de faire des économies?
Je vais vous demander. Il y a quatre secteurs. Enfin, il y a quatre chantiers. C'est cool. N'importe. Je suis extrêmement fatigué. Il y a quatre choses. Voilà, le mot chose est super pour ça. Ouais. Non, mais j'ai bossé.
Ok.
Il y a quatre choses sur lesquelles il va falloir faire des économies,
okay.
Et qui sont les pistes, quatre pistes, c'est ça le mot que je cherchais,
okay.
Des pistes d'économie qu'annonçait Bruno Le Maire, et voilà. À votre avis, lesquelles?
Les chômeurs?
Ouais.
Les
chômeurs, c'est un facile.
On en a un sur quatre.
La
sécurité sociale.
Non, les maladies longue durée, là.
Exactement, deuxième sur quatre. Les retraites, oh, ça va très très vite.
Ça va très
quatre.
Vite.
Les retraites, et en l'occurrence, les pensions de retraite.
Bien
donc,
sûr,
bien sûr.
Vous savez, vous vous souvenez de la réforme de
retraite? Oui, c'est
avec la
réforme.
Vous vous souvenez de la réforme des retraites où on va travailler un peu plus, mais pour avoir une meilleure retraite?
Mais en fait, non, on va travailler plus et avoir une retraite de merde.
Et en fait, non. L'idée pour faire des économies sera de ne pas indexer les retraites sur l'inflation l'année prochaine.
Super.
Comme ça, et ben, on fait des économies.
Waouh!
Et il en reste une.
Ce serait pas les
profs. C'est un truc un peu plus thématique. Non, c'est pas les profs.
Parce qu'il y a eu des postes de supprimés encore. Plus thématique.
C'est pas les flics, parce que ça, on n'y touche pas.
Bah non.
Ah non,
les flics armés, ça bouge pas. Ça
ce serait pas de l'ordre de la médecine?
Ça a un rapport,
avec l'hôpital.
C'est un rapport avec l'hôpital, c'est un rapport avec le médical, effectivement.
C'est pas les remboursements de médicaments?
Alors, c'est pas les remboursements de médicaments, même s'il y a aussi ça pour le coup, mais ça fait pas partie
des... c'est le truc de genre, t'es pas remboursé par la Sécu si t'es venu pour une mauvaise cause
Non, c'est pas ça, non.
Ah oui,
non.
Les urgences qui te.
Il n'y a pas que tu vas payer un minimum de 1, 2 euros sur certains médicaments?
Alors, il y a ça aussi, mais ça, c'est, on va dire, c'est un peu autre chose. Mais c'est dans le même thème, mais ça fait pas partie des quatre gros chantiers. Pour les médicaments, effectivement, on paye 50 centimes, pardon.
Mmh.
On paye 50 centimes, c'est un forfait de 50 centimes par boîte de médicaments.
Si t'as pas de mutuelle.
Si t'as pas de mutuelle, voilà, tu payes, il y a 50 centimes qui sont sûrs de ne pas être remboursés par, par l'assurance maladie.
Mmh.
En général, quand tu as une mutuelle, automatiquement, c'est pris en charge. Et en fait, ce 50 centimes va passer à 1 euro.
Ah, waouh.
Voire est déjà passé, je ne sais plus, mais c'est validé. Quoi.
Oui, ça va aller très vite, je pense.
Soit c'est déjà là, soit ça va arriver, mais ce n'est pas un truc qui est en débat. Quoi.
Nickel. Super.
Donc, il y a ça. Et on avait dit un autre truc, oui, les urgences. Je ne crois pas que ça a été appliqué encore.
C'est
le fameux je suis pas sûr du millième tour sur des sujets importants, mais oui, l'idée d'un forfait hospitalier en fait, oui, d'un petit truc à payer,
si
pas remboursable
pour rien, entre guillemets,
voilà, c'est ça, si t'es venu mais que la situation n'a pas nécessité de consultation médicale.
Oui, parce que c'est nous qui savons, on est tous médecins, donc
exactement.
On sait très bien quand on va
comme
aux
ça,
médecines.
Comme ça, à l'avenir, la prochaine fois qu'il y aura un truc, on se dira, ah bah non, j'ai pas envie de payer, ouais, je suis trop précaire, et puis on va rester chez soi, puis ça sera un truc grave, et puis on va mourir dans le silence.
Nickel.
Allez.
Puis on va appeler le 15.
C'est déjà ce qui arrive en vrai.
On va appeler le 15 et on va tomber
des
sur des
super opérateurs,
voilà,
au téléphone.
On va tomber sur des opérateurs qui vont rire.
Raconter n'importe quoi, madame, et ciao.
D'ailleurs, je crois qu'elle a été condamnée,
l'opératrice.
Ouais, l'opératrice qui a été directement responsable de la mort, tu sais, de cette femme noire qui a appelé en disant, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre.
Ouais.
La meuf a dit, bah, vas-y, prends un passe-fond MDR, et lui a raccroché au nez. Et la meuf est morte.
Yes.
Voilà, voilà. Elle a été condamnée.
D'accord.
Il me semble. Ah, pardon.
Ouais.
Il me semble.
Mais de toute façon, si c'est pas le cas, ça saute. Je vérifie au montage.
Allez, let's go.
Oui. Donc, on n'a toujours pas trouvé le dernier axe de
déconner. Ah, toujours pas. Je croyais que c'était les médicaments.
Non, c'est pas les médicaments.
Ah.
Enfin, en tout cas, c'est pas ça que je vais noter. Mais les médicaments doivent en faire partie.
Est-ce qu'il y a un truc
ça, mais...
sur le commerce en général, la TVA?
Non, il a dit que c'était médical.
C'est vraiment
assez médical aussi.
C'est un aspect du médical.
D'accord. Les médecins traitants.
Non.
Mais
c'est quelque chose qui va être moins bien remboursé à l'avenir.
Moins bien remboursé.
Un truc très thématique, genre les lunettes, les dents.
Non, c'est
ça
pas
a déjà baissé les lunettes.
C'est pas un objet.
Ok,
on va
c'est
dire.
Pas
c'est
un pas objet. Un... Très bien. C'est un soin en particulier.
C'est pas non plus un soin.
Ok.
C'est les chambres.
Non.
Non, parce que
quoi d'autre ?
Faudrait que ce soit un truc qui concerne beaucoup de monde en vrai.
Oui, bah oui, ouais. Pour faire des économies, c'est réel.
Bah les ambulances, mais je sais pas.
Exactement.
Pas
remboursé. Les transports médicaux.
Mais c'est pas remboursé déjà les ambulances. Moi je l'ai payé la dernière fois.
Oui, non, mais tu l'as payé, bien moins que ça a coûté en soi. Et donc ça dépend, parce que il y a les ambulances privées, c'est souvent, donc là ça va être les camions bleus et blancs qu'on voit comme ça. Il y a les ambulances des pompiers ou là
le SAMU,
voilà le SAMU ou les choses comme ça, que là en général tu vas soit pas payer, soit tu es à peu près sûr d'être quand même très bien remboursé.
Ouais.
Enfin bref, ça dépend de quel service d'ambulance tu
t'as besoin,
t'as besoin, ou en tout cas a été appelé pour toi, etc., etc. Il y a également les taxis. Qui
oui,
sont,
parce que les taxis peuvent t'amener à l'hôpital,
voilà,
et t'es remboursé. Ouais.
Avec une prescription médicale, tu peux prendre le taxi dans un but médical et être remboursé de ça.
Ah, c'est vrai.
Incroyable.
Donc voilà, sachez-le. Et même pour consulter un médecin, si jamais vous avez besoin de consulter un spécialiste qui est situé, qui nécessite un transport que vous ne pouvez pas assurer vous-même, etc., n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant qui vous a dirigé vers le spécialiste d'ajouter à l'ordonnance pour aller voir tel spécialiste une ordonnance de transport médical. Ça vous permettra d'être remboursé pas mal sur un taxi éventuellement.
Il faut bien faire gaffe quand on commande le taxi qu'ils le prennent en charge.
Oui,
parce que par exemple, Uber, ils le font pas. Il faut
que ce soit un taxi qui prenne
ça en charge.
Faut que ce soit un taxi agréé là-dessus, mais il y a des listes sur internet, vous pouvez trouver. Mais voilà. Profitez-en tant que c'est bien remboursé.
Ouais. Est-ce qu'on peut me rappeler le budget pour les JO déjà ? J'ai un trou de mémoire.
Il me semble que c'est quelque chose comme 150 euros.
C'était ça. Ouais, je comprends les économies du coup.
C'est
faut les trouver
à peu
ailleurs.
Près autant que Furax, quoi.
C'est vrai. C'est bien vrai. Peut-être qu'on devrait leur faire un don. Hein. Ils ont l'air d'avoir besoin de thunes. Hein.
Anne Hidalgo, confirme un Furax.
Allez.
C'est fou.
Ah, dommage.
Oui, mais les JO. Ok, ça nous coûte de l'argent, mais ça va nous rapporter de l'argent déjà, en retombées économiques, comme tous les JO finalement ont rapporté
bien sûr.
De l'argent au pays, et surtout en grandeur.
Oui, bah là,
la grandeur de la France.
Ouais, je pense que là, on va être connus mondialement
France,
pour notre, euh, nos transports. Voilà, quoi.
On va gagner des points de qualité.
Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que les transports passent, enfin à Paris, ça passe à 4€ ton ticket de métro pendant la période. Donc,
Non, non, mais là, on va être. Parce que les gens.
Valérie Pécresse va se faire de la thune.
Mais tu n'es pas concerné par cette augmentation, car tu peux les acheter en avance pour ne pas être concerné.
Bien sûr, bien sûr.
Surtout, également, j'habite pas à Paris. Donc,
oui, tu n'es pas du tout concerné.
Parce qu'on rappelle qu'ils ont quand même fait de l'affichage pour qu'on reste chez nous.
Ouais, ouais, ouais. Là, il y a encore des.
On anticipe nos déplacements.
Les entreprises, mes patrons, ils ont reçu un mail en mode est-ce que vous pouvez vous mettre en télétravail pendant la période, s'il vous plaît, pour que vos employés ils aient pas à venir.
Est-ce qu'on va recevoir un SMS comme pendant le confinement ou
peut-être peut-être qu'on devra faire une attestation quand on sort, tu sais.
Alors c'est le cas dans certains arrondissements,
allez vous faire foutre.
Non, mais si, ils ont complètement prévu ça. Il y a même des endroits où tu ne pourras juste pas aller, des endroits trop proches de
à moins d'habiter là et d'avoir un justif de domicile.
Et oui. Et là, ils ont même parlé très récemment de, ils aimeraient trouver un moyen de surveiller. Alors, cette phrase ne veut rien dire. Ils veulent trouver un moyen de surveiller toutes les personnes qui auront vu sur la scène.
Oui.
Quoi que ça veuille dire.
Ça, c'est pour pas que on jette des trucs.
Non, cette phrase.
C'est vrai que le diable a terriblement besoin d'avocats.
Non, c'est pour pas qu'ils balancent des trucs sur les.
Oui, comme par exemple une balle de fusil. Je pense que c'est notamment ça qui est problématique, c'est que effectivement, si t'as un appart avec vue sur la cérémonie, si toi t'as vue sur la cérémonie, une lunette de sniper a également vue sur la cérémonie, et je pense que c'est ça qu'ils veulent contrôler. Ça pose plein de questions.
Après,
mais
ils
en
vont
tout cas,
peut-être
c'est
aussi
pas...
contrôler que t'es pas une banderole Macron explosion, par exemple.
Voilà, ça pose plein d'autres questions.
Le bateau
mais
de la CGT.
Effectivement, ce serait beau.
Moi, j'en rêve. Banderole, depuis qu'on m'a dit défiler sur la Seine, je pense au bateau de la CGT.
Non, mais une banderole CGT sur chaque pont de la Seine, en fait. Genre,
ça demanderait un certain budget.
Pas y avoir une ça se fait. Patrouille de France de la CGT.
Pitié, par contre,
balance de la fumée rouge.
Je suis sûr, la CGT à l'armée de l'air, finalement. Est-ce que c'est trop demandé?
Malheureusement.
Il y a sûrement la CGT armée de l'air.
Ça doit
être
évidemment que non.
Ils n'ont pas le droit d'être syndiqués, les militaires, bien sûr.
Ça serait trop.
À la base, ils n'avaient pas le droit de vote non plus.
Ah ouais?
Oui, bah c'était peut-être pas plus mal quand on voit ce pourquoi ils votent.
En fait, c'est juste que t'es censé être le bras armé de la France et t'es pas censé
devoir de réserve.
T'as pas le droit de vote? Jusqu'à quand?
Oh, je sais pas ça.
Ah, peut-être fake news, attention.
Vérification en direct, attention.
Ah, ça se trouve, j'ai menti depuis le début.
Non, mais ça va être bien sympa, les JO. J'ai hâte. Moi, vraiment, je pense que les gens qui vont arriver, qui vont se dire 4€ le ticket de métro, waouh, le métro parisien doit vraiment être beau, propre, à l'heure, efficace.
Ils vont peut-être faire le ménage pour les JO.
Alors, il y a des trucs, Maros, c'est pas le ménage qui va les sauver.
Oui, c'est pas le ménage qu'il faut, c'est faut tout casser, refaire. Quoi.
Faut refaire.
Est-ce que les travaux de Châtelet seront finis ou
Non, ça c'est un relégat.
Mais en fait, déjà, le simple fait qu'on n'ait pas des barrières
Châtelet,
pour empêcher les gens.
C'est un peu fini.
Non, il y a toujours des travaux là.
Toujours.
Non,
toujours.
Il les déplace petit à petit.
Ouais, d'accord, ok. J'y passe assez peu.
Mais déjà, le fait que sur chaque rame de métro, il n'y ait pas, tu sais, les portes pour empêcher que les gens tombent, déjà, juste ça, c'est terrible. Et pourtant, le nombre de portes, il y en a très peu.
Alors, sachez que les militaires ont le droit de vote depuis une loi du 15 mars 1849.
Oh, wow.
Ah oui,
ça date quand même.
Un petit peu.
Avec une petite période de...
Ils l'ont eu après
de
les femmes.
De Napoléon III.
Allez,
let's go.
Avant les femmes, tu
vois. Oui, avant.
1800, il a dit.
Ah,
1800.
Moi aussi, j'ai entendu 19.
Non, 1800.
Ah, c'était sur 19 aussi
Moi aussi, j'ai entendu 19. Ouais,
ça va, cette date.
Oui, je me suis dit, c'était bizarre.
Dans juste vraiment une parenthèse dans la série droit de vote, pas le droit de vote, étrange. Moi, il y a un truc qui me fume, c'est que jusque dans les années 60, les habitants... Alors là, on part aux États-Unis, attention.
Wow.
Les habitants de Washington n'avaient pas le droit de vote.
Pourquoi?
Mais parce que tu vis dans la capitale, t'as pas ton avis à donner.
Ouais, non, mais
ça
c'est
pas quoi.
Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le système électoral fonctionne par État.
Et Washington
est considéré comme le district de Columbia, qui n'est pas à proprement parler un État. Ah. Et du coup, ils pouvaient pas voter pour les présidentielles. Et finalement, ils ont ajouté le district de Columbia comme une circonscription électorale.
Non, mais la démocratie aux États-Unis, c'est un délire. Encore des endroits où ils votent à main levée
dans des gymnases et
des
tout. Donc les militaires, tout ça, rembobine le fil.
Oui. Les JO.
Les militaires, les JO, ça coûte de l'argent.
Oui.
Les ambulances, ça coûte encore plus d'argent.
Donc les économies, Bruno Le Maire.
Les économies, Bruno Le Maire, bien évidemment.
Le renflement brun, bien sûr.
Waouh.
Est-ce que vous avez vu on change de sujet, mais on se rapproche un peu plus d'un sujet furax. Est-ce que vous avez vu quel lieu deviendra officiellement Safe Place safe place.
Absolument.
En cas de harcèlement de...
Alors, les points de vente FDJ.
Exactement.
Bien sûr.
Eh, oh là 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 là. C'est
exactement ça, bien sûr.
La nomenclature de ma
c'est
réponse.
C'est vrai qu'il y a bien un endroit où je me suis toujours sentie en sécurité en tant
c'est
que femme,
PMU, ouais.
C'est les PMU.
C'est là où tu vas acheter ton petit astro.
C'est exactement. C'est mon petit bar tabac. C'est... Voilà, c'est...
Moi, je me vois bien arriver en courant dans un PMU. En mode, je suis en train de me faire harceler. Ils me disent, bah, t'as vu ton décolleté, évidemment. Hein, genre,
ah non, la lisse, en même temps, la petite jupe, là.
Et moi, derrière, qui vais dire, mais c'est juste moi, en fait.
Non, c'était juste pas
une blague méta.
Une blague méta de ce qui s'est passé juste avant l'émission. Où j'ai marché à peu près. À peu près 100 mètres dans la rue derrière Joule.
J'avais pas reconnu.
J'ai fait ding avec ma trottinette, j'ai fait c'est moi. Et elle a accéléré le pas, elle s'est retournée 2-3 fois.
J'avais mon casque, j'ai pas entendu que c'était
et
lui.
Elle s'est dit il y a un mec qui me suit.
Il me suivait.
Vite, un point FDJ.
Un mec qui me suit, oh là là.
Clairement, là si t'avais une PMU, là t'étais sauvée.
Et merde, il continue à me suivre. Oui, on va au même endroit. Nous sommes amis et nous sommes en route vers exactement le même projet.
Je serais rentré dans un PMU, tu m'aurais suivi. Tu sais.
La protection a été inefficace. Oh, terrible.
Non mais bref, oui. Donc, mais je, alors, encore une fois, je vais me renseigner en plein épisode parce que finalement, quels sont les tenants et les aboutissants de ce truc ? Est-ce que c'est la Française des Jeux, qui est désormais une entreprise privée, on le rappelle, qui a décidé ça ?
Oui, c'est une opération de communication, a priori,
oui, c'est ça, en fait.
Surtout. Mais
ils
c'est
ont,
la
ils
FDJ.
Ont formé les gens, du coup ? Ouais, c'est ça qui m'inquiète.
Non, c'est vraiment un truc de si vous avez besoin de rentrer dans un commerce, c'est celui-là.
Ouais, voilà, c'est
et
ça.
Pourquoi celui-là ?
Alors, okay.
Parce qu'il y en a partout.
Je me sentirais plus en sécurité dans un truc de maquillage avec d'autres meufs. Tu vois, genre c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Mmh, mais moi,
un salon
je
de beauté,
me sens en sécurité, un salon de beauté, un truc de maquillage.
Ouais.
Je me sens en sécurité là-dedans.
Bah oui,
tu vois.
Oui, j'imagine, oui.
Enfin.
Alors, on va tous et toutes ensemble recouper cette information et
allez.
Informer
oui.
les gens.
Bien
oui.
sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
Allez.
Tout simplement, il y a une application qui s'appelle Umai.
Quoi ?
Umay.
Ok.
Et en fait, c'est une application qui, en gros, est une application de recensement de safe place.
Ok.
C'est ça le truc. Et donc, toi, en tant que commerce, tu peux t'enregistrer en disant, chez nous, vous pouvez venir en cas de problème. Vous serez accueilli. Et en fait, la FDJ, c'est associé à l'association pour dire, nous, en tant que FDJ, on associe tous nos points de vente dans cette... On enregistre tous nos points de vente
Est-ce
dans cette association.
Est-ce que les points de vente sont au courant ? C'est un peu ça qui m'inquiète.
Voilà, c'est ça le truc. C'est que les points de vente FDJ, c'est pas des succursales possédées par la FDJ.
Non, c'est des espèces de franchises, c'est des commerces...
Bah c'est même pas... C'est encore plus que des franchises.
Oui.
C'est juste des commerces...
C'est juste, tu prends un fonds de commerce, tu dis « je veux vendre des produits de la FDJ »
oui,
et
voilà,
tu prends une
ça.
Sorte de licence, en fait.
Oui, et, c'est ça. Et puis, ça doit être que des buralistes et des,
oui,
des
ouais.
bars, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'en vois pas d'autres.
Ah, sinon, c'est des presses. Enfin, c'est des...
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Des kiosques.
Mais tu dois cas,
avoir
ouais,
genre
kiosques,
les... Surtout, tu dois avoir les hypermarchés, des trucs comme ça, puisqu'ils vendent de la presse, donc...
Ouais, mais
ils vendent des produits FDJ.
Du jeu des lotos et tout, je crois pas.
Ils vendent que de la presse, oui, c'est vrai.
Mais voilà, en gros, c'est...
Si, tu peux faire ton loto dans certains carrefours, je crois. Oh.
Les petits carrefours des petits villages,
écoute,
ouais, mais dans
la
les grands
diagonale
trucs, je crois
du
pas.
Vide, donc je sais.
C'est vrai que dans le petit village de mon père, il y a l'épicerie dans lequel il y a du FDJ.
Ouais, voilà,
épicerie, FDJ. Bon, en l'occurrence, dans son village, ça va.
Ouais.
Je pense qu'on peut.
Tu sais jamais.
Non, c'est vrai, mais tu sais jamais. Mais donc voilà, donc, en fait, oui,
Moi,
c'est vrai.
Je me suis fait suivre aujourd'hui, tu sais.
Ah bon ?
Bizarre.
Donc voilà, je comprends un peu mieux cette histoire, mais
du coup les gens sont pas au courant. Enfin, les gens qui vendent des produits FDJ à ce jour sont peut-être pas tous au courant.
Je pense qu'ils ont été mis au courant, mais il y a quand même 29 000 points de vente FDJ en France.
Oui, voilà.
Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et là, il y a du storytelling en début d'article et il faut s'abonner aux Parisiens, ce qui est évidemment hors de question.
On se respecte ici, à ce que je vois.
Ah oui, non, mais en plus, le Parisien, ça vire...
Aucun d'entre nous n'est Parisien, déjà.
C'est vrai, j'habite pas à Paris. Qui habite à Paris ? Personne.
Personne
n'habite à Paris.
Personne.
Okay.
Ça se tient.
Ok. Umay application, renseignons-nous. Est-ce que ça vaut le coup, ce truc-là ? Ou est-ce que c'est une start-up à la con ? Qui se fait des sous
Par
sur
pitié.
Le dos d'un problème de société.
Par pitié, dis-moi qu'il y a des notifications ou des avis Google. Pitié.
On va lire ça tout de suite.
Oh, pitié,
bien
oui.
Bien sûr.
Let's go.
Umay, move safely, more smartly.
Oh, wow. Ooh.
Mais il y avait une appli à une époque où c'était juste les femmes qui se prévenaient, en fait.
Il y a Cypher.
Non, je sais plus comment ça s'appelait.
Cypher, c'est souvent en partenariat avec les festivals.
Non, ouais, non, non, il y avait une appli il y a quelques années où, en gros, quand t'étais dans la rue, tu disais, genre, là, il y a des mecs louches, là.
Ah ouais, tu pouvais les pinpoint. Okay.
Et du coup, quand tu rentrais chez toi le soir, tu pouvais regarder, genre, ton chemin et voir s'il y avait des gâches.
Mais il y en a eu plein, c'est comme Waze avec les autoroutes bouchées, sauf que là, c'est avec les mecs louches.
Mais je sais plus comment ça s'appelle.
C'est le Waze des relous.
Ouais,
sur
le Waze relou.
Il signale les flics. Et
voilà.
Et sur l'autre application, il signale.
Mais c'est ce que j'allais dire. Allez!
Oh, le bip.
On n'a pas peur ici. Hein, de
non, non, bah, hein. Attention, Macron démission. Hein.
Alors.
Darmanin.
Je vais lire un petit peu les
avis. Ah oui, non, c'est vrai, faut pas dire ça, pardon, j'avais oublié.
Non.
Je suis désolée.
Avec Darmanin, pas gentil.
Darmanin rime avec...
Bof. Pas ouf. On sait faire des rimes avec Cosima.
Ouais, non, je pense que là, on... Ouais, ouais.
Alors, Oumai, se déplacer en sécurité.
Allez.
Ouais. Une application. Voir que, alors ça se présente comme ça, voir quel safe place, commerce bienveillant ou gendarmerie police sont sur son.
Okay. Déjà ils ont
gagné. Bienveillant et gendarmerie police dans la même phrase.
Trouve les safe places, lance un trajet et choisis parmi les personnes de conscience que tu as enregistrées qui veillera sur toi.
C'est complètement
ça,
Waze.
Ça c'est
pour partager la localisation. C'est d'autres applis qui l'ont fait aussi.
Ouais, aussi bien, okay. Ça, ouais. Créer des signalements visibles par la communauté. Ouais, ça rassemble un peu les idées qu'il y a eu à droite à gauche.
Moi, je veux les notes.
Alors, les notes. Il y a une moyenne de 3,9.
Aïe.
Il y a quand même des notes, il y a quand même des notes négatives.
Mais alors, attendez. Avant de juger, il y a un univers où c'est des incels pas contents qui mettent des downvotes parce que, oh là là, c'est trop féministe.
C'est vrai aussi, ouais.
C'est ce qui était arrivé notamment avec cette idée, je sais pas si vous savez, le numéro anti-relou. C'était le numéro que tu pouvais donner à quelqu'un qui tu voulais pas donner ton numéro de téléphone. Jeuxvideo.com s'est emparé de ça, ils ont spammé le truc et en 2 jours ils l'ont fait tomber quoi.
Ouais.
Je ne trouve pas le bouton. En fait, les gens signalent surtout que l'application marche mal.
Ah,
ça a pas l'air très solide. Ouais.
Aïe.
Même visuellement,
je
vous
viens
avez
de
pas
télécharger
visuel,
l'appli et je suis extrêmement déçu de constater que dans ma ville, les seuls safe places sont des commissariats de police. Je pensais vraiment en trouver plus que ça. 3 petits points.
Ah.
Bah après, c'est pas la faute de l'appli, ça.
Non. Ils disent nous travaillons tous les jours pour couvrir progressivement toute la France, etc. Je n'arrive pas à créer un compte. Application non utilisable, c'est une blague. Ok, bon, c'est des gens qui n'arrivent pas à utiliser. Elle s'arrête tout le temps. Impossible d'ajouter un contact. Dispo que pour les Parisiens. Bon, bref. Donc voilà pour l'aspect harcèlement de rue. Vous le savez, vous pouvez aller dans un point de vente FDJ et vous serez accueilli vraiment de manière nickel.
De Nat, moi, je vais aller au nail salon.
Franchement, ouais. Aller dans un truc de beauté, aller dans un truc de coiffure, un endroit où il y a plein de meufs, vous serez plus
et
en
même,
sécurité.
Et même un endroit où il y a du monde, en fait.
Ouais.
Même si
oui,
c'est
un bar
où vous voyez peut-être des gens de votre âge, ou enfin voilà, ça peut être ça plutôt que des endroits pas très accueillants.
Et puis on peut rappeler la fameuse technique de si tu vois une meuf qui se fait emmerder, au lieu d'aller frontalement parler au mec, tu vas voir la meuf et tu lui dis hey, Julie, t'inventes un prénom, tu vois. Voilà. Hey, Julie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben viens, on t'attendait et tu l'embarques un peu plus loin, ce qui évite que le mec s'énerve et ne vous tape toutes les deux du coup.
Yeah.
Des bonnes astuces.
Après, c'est compliqué ça, parce que des fois, il y a des meufs qui sont en mode ah, bah, je me fais attaquer par un relou, il y a un deuxième relou qui arrive, tu vois. Genre, si c'est un mec qui arrive et qui me fait
non,
oh,
je parlais Morgane, entre meufs.
Ah, oui, voilà. On est d'accord. Entre meufs, ça marche très bien. Ouais. Mais entre mecs, effectivement, juste aller voir la meuf et juste en termes de tu sais, se mettre, tu sais, le langage du
corporel,
corps,
ouais.
Se mettre entre toi, enfin, entre elle et le mec, sans spécialement insulter le mec, mais juste tu te mets entre les deux en mode hey, salut. Voilà. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Vas-y, rebondis, Panic.
Bang.
Allez, nice. Incroyable, magnifique, très belle balle, ma chienne jouerait avec.
Alors, dans la suite de ce que j'ai noté, la polémique, la fameuse polémique vraiment qui régale Aya Nakamura, d'où c'est parti. Macron a reçu en privé, c'est pas voilà, à l'Elysée Aya Nakamura, et lui a dit « Oh, ce serait super si... » Imitation Macron, attention.
Incroyable, j'adore.
Et si, machin, vous chantiez à la cérémonie d'ouverture des JO, vous pourriez chanter, par exemple, Edith Piaf, machin, tu vois.
Okay. Elle lui a dit « Il n'y a pas moyen, Gadja. »
Wow.
Gadja.
C'est Gadjo. Gadja.
Ah oui, t'as mis l'ordre de Gadjo et Gadja.
Gadja. Je suis dyslexique et je suis malade. Je vous emmerde.
Mais elle a pas spécialement donné de réponse.
Dommage. Elle avait une occasion.
Elle a bien vu.
Par contre, Macron a bien dit à ses contacts journalistes, hey, j'ai reçu à Yannick Amoura, je lui ai proposé ça. Hein. Du coup, l'info est sortie. Et du coup, ça a fait polémique parce que, oh mon Dieu, Aya Nakamura, mais quelle honte, on comprend rien à ce qu'elle dit, elle dit n'importe quoi, et puis elle n'est même pas française.
C'est ça que tu es en train de nous dire, c'est pas confirmé,
elle a pas dit
d'accord,
oui.
Okay.
Ah mais bien sûr que okay. Non, c'est, rien n'est confirmé. Okay. En fait,
alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi lui faire chanter du Edith Piaf, quoi. Elle peut pas chanter du Aya Nakamura. Enfin, c'est quand même une des Françaises les plus connues à l'international. Ouais. Donc, ça veut dire que les gens qui vont la voir au JO, il y en a plein qui sauront qui c'est et qui connaîtront ses chansons. Pourquoi on la fait chanter des chansons de quelqu'un
d'autre? Si elle prend un texte d'Edith Piaf et qu'elle le fait avec elle, avec son univers, moi, je serais ultra curieuse de voir
ce que ça donne. Oui, elle a une petite récré avec du vieux.
C'est ça.
Alors, ça, ils vont devenir ouf.
Mais justement, ça va les rendre dingues.
Les textes d'Edith Piaf, ça marche bien aussi à l'international parce que c'est des trucs simples. Non, mais parce que c'est des trucs simple. Les chansons d'Edith Piaf, il y a pas de profondeur. Hein.
Oui, mais c'est encore une fois, c'est genre la vieille France qui est bandée par les par les vieux là.
Et on est aussi sur un cliché connu du monde entier. Oui, c'est ça aussi. C'est jouer sur une référence très connue, quoi.
Ouais. Mais tu vois, moi, je sais que ça arrivera jamais. Mais moi, tu me dis, Aya Nakamura, elle va reprendre du Edith Piaf, mais elle va le faire à sa sauce. Je signe. Franchement, ça peut être trop fun.
Je suis chaud
aussi. Comme
quand
Maître Gims, il a dit l'ombre de ton yinche, tout ça.
Il n'empêche. On en parle encore 10 ans plus tard. On en parle encore 10 ans plus tard. C'est la preuve que quelque part, il a réussi son pari, tu vois.
Grave.
Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais il a grave réussi son coup. Genre, c'est un coup de com' monumental et on en parle encore. L'ombre de ton yinche est. L'ombre de ton yinche est.
Bête comme yep.
Et.
Bête comme yep.
Et.
Garde-le ça.
Bien sûr que je vais le garder.
Waouh.
Non, parce que Edith Piaf, c'est une fille d'immigrée, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça, c'est ses grands-parents, je crois.
Quoi, Piaf, c'est pas français comme nom.
C'est ça, grands-parents.
C'est son nom surtout.
Elle est descendante
d'Algérien,
son grand-père marocain.
Marocain.
Descendant de marocain. Oui, ok, c'est ça, oui. Et la mère d'Edith Piaf était italienne également. Donc, une enfance très très pauvre avec réputation d'alcoolique et droguée par rapport à sa mère, tout ça, enfin bref, tout un truc. C'est une France qui est fantasmée mais qui n'existe pas.
Il y a un récit quoi.
Quoi. Bon, bref.
Mais surtout, les mêmes gens qui sont des bandeurs de la grandeur de la France des années 30-40, c'était pas les mecs qui auraient soutenu Edith Piaf à l'époque,
C'est exactement ça. Mais bref, en tout cas, pour ce qui est d'Aya Nakamura, j'ai envie de dire, personne n'est dupe sur le problème que ça pose, parce que les gens rament quand même pas mal à donner des arguments. Ça tourne toujours autour de « mais enfin, écoutez donc ces paroles », comme s'il n'y avait pas 36 000 autres trucs en France qui étaient complètement cons.
Quand on écoute les paroles de la variété française, ça vole pas haut non plus. Hein. C'est juste que c'est pas dit avec un accent, voilà.
Voilà, avec un accent et une tête.
Mais oui, voilà. Bien sûr, parce que l'accent d'Aya Nakamura,
accent,
en vrai,
accent de banlieue à la limite.
Oui, voilà. Enfin, mais voilà.
Bah, c'est ce qui est arrivé à Adèle Exarchopoulos aussi.
Oui, tout à fait. Absolument. En mode, elle est tellement jolie. Pourquoi elle parle comme une Kaira? Nique-toi, au pire. En fait,
pourquoi pas.
Voilà.
Mais donc voilà, donc toute la polémique part de là. Moi j'ai vu des personnes très mauvaise langue, je trouve, qui se demandent en fait si Macron s'est pas amusé à jeter Aya Nakamura sous le pont.
Je pense que le fait de l'avoir dit publiquement, c'était pour la piéger un peu, pour qu'elle se retrouve obligée de le faire.
Oui, ouais.
Il y a un peu ce côté où les gens disent Macron, il peut pas être dupe et il sait qu'en lâchant cette info, il sait très bien qui va réveiller. Et de lâcher ça sans que ce soit formellement confirmé, etc., etc. En tout cas, bon, même si c'est pas volontaire de sa part, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là où au-delà même des gros trous du cul qui alimentent la polémique et qui en font des émissions CNews et même sur les autres chaînes d'ailleurs, parce que tu dises en rotant Aya Nakamura au JO n'importe quoi, ou que tu le dises en fumant la pipe, genre, alors parlons de cette polémique et pourquoi, et qu'est-ce qu'on doit en penser sur...
C'est censé être nous les deuxièmes ?
Ouais.
Ah, super.
Au final, on en parle et ça devient un sujet. Et ici, on ne se posera pas la question de qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'ai très peu de doutes. Mm-hmm. Et même dans l'audience du podcast, je pense qu'il y a très peu de doutes. Ou alors, si vous avez un problème avec ça... peut-être changer de podcast, je pense.
Waouh. Vous pouvez quitter le podcast immédiatement.
Vous pouvez le quitter.
Ok. Moi, je voudrais bien parler du fait, parce que tu as dit CNews.
Ah,
ça y est.
Oh là. Ça m'a direct fait penser au fait que maintenant, ils vont être obligés d'apporter de la pluralité dans leur discours.
Ça, on en a parlé dans le millième tour de je ne sais plus quelle date.
C'est un sujet qui a déjà été abordé.
Parce
que ça les rend zinzin, ça, ces news. Hein.
Ça les rend zinzin, mais alors ça a pas... Ça s'est un peu tassé, je ne sais pas où ça en est, ce truc-là. Mais de toute façon, c'est juste une recommandation de l'ARCOM.
Moi, je pensais que c'est une obligation.
C'est plus ou moins une obligation, mais je ne sais pas comment. On ne sait toujours pas comment ça va être appliqué, en fait. Parce que l'idée, en fait, est d'associer. Alors, ça ne concerne pas que CNews, hein, c'est toutes les chaînes.
Oui,
l'idée
est d'associer. C'est que CNews, en fait, que ça fait râler.
les intervenants et les intervenantes non politiques à les placer sur un spectre politique pour dire. Là, machin qui est écrivain, chroniqueur, éditorialiste, a parlé pendant une demi-heure, mais clairement, quand il parle au nom de la droite, et donc il compte comme la droite, ou il parle au nom de la gauche, et il compte comme la gauche.
Oui,
c'est spécial.
Mais ça, après, je pense que c'est trop, un peu plus. Enfin, pour moi, si tu veux appliquer ça, il faut le faire sur les chroniqueurs et pas sur les invités, parce qu'après,
Oui, non, mais c'est.
Mais du coup, ils vont plus avoir de chroniqueurs, ils vont prendre que des invités.
Ouais. Sauf qu'en fait, de toute façon, souvent, dans des talk shows. Quotidien comme l'heure des pros ou comme chez Hanouna, etc. En fait, il y a un mélange des gens entre chroniqueurs et invités, parce que t'as des invités qui en fait finissent par être invités tous les jours et qui deviennent des chroniqueurs etc. De toute façon, ils sont payés à l'émission, c'est pas des gens qui sont engagés à proprement parler, donc comment tu comptes ça, c'est très compliqué. Est-ce que là on a appris récemment que Michel Onfray aller rejoindre CNews.
Beau casting.
Oui, c'est CNews.
Oui, c'est CNews. Il va rejoindre CNews. Michel Onfray, il y a encore des gens qui le classent à gauche.
Ouais, non, mais. Et puis c'est pareil, s'ils veulent mettre des invités de gauche, pardon, ils peuvent dire on a invité Manuel Valls, les gars. Donc,
mais voilà, exactement. Ben voilà, mais Manuel Valls.
Il viendrait, mon pote.
C'est ça, quoi. Donc comment est-ce que tu classes les gens? Ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils vont dire mais quand même, la gauche a beaucoup parlé, parce que Manuel Valls était à l'antenne chaque
Manuel
jour pendant
Valls
une heure.
Manuel Valls dire qu'il y avait trop d'immigration, donc la gauche a suffisamment parlé.
Ça compte pour la gauche, c'est bon.
Il était d'ailleurs, au PS quand même.
Non, mais d'ailleurs, justement, en France, on sait qu'il était dans le PS, mais moi, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette info, mais à Barcelone, il est d'extrême droite.
Alors, il est pas d'extrême droite.
Pas d'extrême droite, mais quand même
non,
à droite.
Il est associé à un parti de centre-droit. Mais un parti de centre-droit qui fait alliance pour les élections avec le parti Vox, qui est d'extrême-droite, pour le jeu des alliances, en gros, parce que tous les scrutins se font plus ou moins à la proportionnelle.
C'est ce qu'on a, t'es d'extrême-droite.
Oui, voilà, c'est ce que fait Macron avec Le Pen en ce moment. Enfin, je veux dire, on peut tourner ça comme on veut. Mais
comme ils l'ont fait pour les législatives. Quoi.
Voilà, exactement.
Mais j'entends ce que tu dis. De manière plus informelle, on va dire.
Voilà.
Parce que,
en gros,
dans les systèmes parlementaires comme l'Espagne, t'es obligé de faire des coalitions. Il va y avoir 10 partis. Jamais un parti va avoir la majorité absolue. Donc, tu cherches à droite, à gauche, avec qui tu vas t'unir pour former une majorité.
Et genre, au centre-droit, leur seule solution, c'était l'extrême droite. Il n'y avait personne d'autre.
Oh bah oui, oui.
Oh oui, il n'y avait personne d'autre.
En vrai, le truc, c'est que la gauche espagnole, elle est plutôt ok, tu vois. Elle est plutôt okétière. Et donc,
oui,
je pense
surtout,
que c'est
elle,
pas...
elle a plus de pouvoir que chez nous aussi, la gauche en Espagne.
Ah oui, mais du coup, c'est pour ça. Genre, pourquoi pas s'allier à eux?
Ah bah parce que c'est sont, parce qu'ils
sont
pas
plus
envie.
D'accord avec l'extrême droite que la gauche.
On en revient à ce que je disais. Ah bah, donc. Ah, oui, oui, ah, voilà.
Si tu poses la question,
non, non, mais c'est pour ça. Tu me dis oui, mais ils ont pas le choix. Il faut faire des alliances. Mais d'accord, ils ont pas le choix. Le centre droite faire des alliances. Et du coup, ils se sont dit l'extrême droite, c'est notre seule solution. Tu vois.
Parce que c'est censé être centre droit, pas droite.
Mais c'est centre droit avec. Voilà, on fait des compromis. C'est ça la démocratie.
C'est vrai.
Ça te pose problème la démocratie, j'ai l'impression.
J'avoue. Les compromis avec les nazis, j'avoue, j'ai toujours été un petit peu sceptique. Mais ma foi.
Un petit peu sceptique.
Juste un peu. Non, mais je voulais. On l'a dit tout à l'heure. Les nazis apolitiques existent. Donc ça se trouve, ils sont d'extrême droite apolitique. Tu vois, genre, faut leur laisser une chance, je pense. Surtout à Manuel Valls. J'ai fini. Tu peux y aller.
Est-ce que vous vous intéressez un petit peu? Est-ce que vous êtes en plein vraiment votre cœur bat pour les européennes?
Absolument.
Les quoi?
Les élections européennes.
Les quoi?
Les élections européennes.
Les quoi?
Je sais même pas quand c'est.
Je vais
vérifier.
Je vous donne des bâtons pour le coin.
Non, je l'ai pas.
Il y a une année, c'était le jour de mon anniversaire, donc je m'en souviens. Mais c'est pas ça.
C'est cette année.
De quoi?
Les européennes.
Ah bah oui, c'est cette année.
C'est cette année, oui.
Absolument.
Ah oui.
Non, mais c'est pas même, l'an prochain.
C'est imminent.
Genre,
mais... c'est...
Oui, c'est imminent, ouais, d'accord.
Oui. Élection européenne 2024, sachez-le, c'est les 6 et 9 juin.
Ah, moi, je me souviens juste des affiches.
C'est le 9 juin. C'est 6-9 juin, parce que ça dépend des pays.
Oui,
des pays
absolument.
Qui votent,
moi, je me souviens juste des affiches LFI, même machin truc, vote,
oui,
et vous.
Oui,
et
oui même 4
devenu...
minces.
Ouais, ouais. Non, alors, non, ça, c'est une parodie. Mais justement, ils ont dit ça d'un mec d'extrême droite en mode, ouais, même machin, ils votent, et vous, et l'autre, oh, harcèlement.
Voilà, il y a ça, parce que ça a commencé avec même les golfeurs votent, et vous, etc. Ensuite, ils ont commencé à mettre des têtes, ils ont mis Pascal Pro, ils ont mis Nathalie Saint-Cric, et ça a très énervé.
Ah oui, mais parce que c'est les genres de personnes qui demandent des ITT après quand tu leur fais ça.
Ah
oui,
c'est
attention,
vrai.
Hein.
Putain, ça fait du mal aux gens.
Donc, ouais. Élection européenne le 9 juin, bien évidemment, inscrivez-vous sur les listes électorales, votez.
Si j'offre de la confiture de fraises aux macronistes, là, est-ce que c'est du harcèlement ou pas?
C'est au moins deux jours d'ITT.
Par rapport au truc de.
Si t'en offres à Jean-Marc Zulesi, en tout cas, oui, clairement,
c'est du harcèlement.
Il va tomber par terre, il va se tenir à cheville, il va dire aïe, j'ai mal.
Ok, ouais, je comprends.
Et un mois d'ITT, là.
Ah merde.
Ouais, non, attention, c'est des petits choupis.
Non.
Alors, donc les élections européennes. On avait parlé, rappelle-toi, Nat, dans le dernier épisode dans lequel tu étais invité, de la liste de l'Alliance Rurale. Est-ce
Bien
que
sûr.
Ça te rappelle quelque chose ?
Pagnac, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé ce midi.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, l'Alliance Rurale, donc une liste vraiment qui représente la ruralité et tout ce qui fait
chasseurs.
Avec les chasseurs. Et c'était
parce que les gens qui vivent à la campagne adorent les chasseurs.
Oui,
ça, vraiment, c'est
pour moi
tous,
les gens
tous.
À la campagne, c'est des chasseurs en fait. Genre dès que t'es à
bien
la campagne, il faut que tu chasses ta propre nourriture, donc. Faut réguler.
Les gens à la campagne détestent les chasseurs encore plus que les gens en ville parce que ils sont concernés.
Oui,
par
parce qu'ils se font
chasseurs.
Tuer.
Parce
absolument.
Que les chasseurs viennent dans leur jardin des fois. Enfin, bon, c'est un délire. Hein.
Ouais. Tu peux plus te balader en forêt, c'est génial.
Et donc, on avait Willy Schren qui est à la tête de la Fédération nationale des chasseurs. Non, FNSEA, c'est les agriculteurs.
Ah,
Willy Schren, c'est
syndicat,
la, c'est
oui,
la
bête,
Fédération des chasseurs.
Qui est un peu
le visage du lobby de la chasse en France, le visage médiatique du lobby de la chasse en France, qui avait été désigné comme tête de liste de cette Alliance Rurale. Et bien figurez-vous que il a été remplacé. Ce ne sera pas Willy Schren.
Oh.
Alors à qui?
Une nouvelle star.
Une nouvelle star. Qui à votre avis?
Adrien Quatennens.
Vous connaissez? Non.
Est-ce qu'on le connaît?
Oui, vous connaissez son nom, vous connaissez son existence.
Est-ce qu'il a été candidat à la présidentielle?
Tout à fait.
Jean Lassalle.
Allez, facile.
Oh là là.
J'allais le dire avant même ça, mais ouais.
Jean Lassalle.
Une vraie star, du coup.
Finalement, ce ne sera pas Willy Schren, ce sera Jean Lassalle à la tête de la liste pour les Européennes.
Comme quoi, les accusations
rurale.
Ruinent des carrières.
Comme toujours.
Mais surtout que Jean Lassalle, il a quand même un capital sympathie bien plus gros que Willy Schren.
Mais c'est ça, mais je pense que c'est ça qui fait qu'ils se sont rendus compte. Il y a plein de gens qui... En fait, il y a plein de gens qui sont dépolitisés au possible et qui trouvent que Jean Lassalle, oh, il est trop marrant.
Il est gentil, voilà.
Mais il a l'air sympa.
Il était en tête du sondage avec quel candidat à la présidentielle aimeriez-vous boire une bière.
Ouais.
Oh, non.
C'est ton voisin sympa. Quoi.
Alors que tu peux boire une bière avec Poutou.
Ouais. Et non, en plus, il est BG. Ouais.
Moi, je l'ai déjà fait personnellement.
Quoi? Pardon?
Excusez-nous. Désolé.
Putain.
Voilà, il faut traîner à la fête de l'UMA, il faut...
Poutou, moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Je serais prête à tuer, mais...
Toi aussi. Ah non, toi.
Non, mais je croyais
toi,
que t'étais non. à Backseat quand il est venu.
Bah non, excusez-moi, j'étais pas là. Voilà, bah, donc super, merci de remuer le couteau. Je m'en fous, Edoui Penel m'a regardé.
Ben voilà.
Et il t'a dit pardon.
Et il m'a dit pardon, enfin, il fallait y passer devant
moi. On a tous croisé le regard d'Edoui Penel ici la semaine dernière, donc quand même...
C'était cette semaine, Paniek.
Quoi ?
C'était cette semaine, Paniek.
Mais pas du tout, c'était la semaine dernière.
On est lundi.
C'était la semaine dernière, Paniek.
Ah, mais les streameuses, là, déconnectées de la réalité, là...
Ouais, c'est ça de travailler tous les jours. On ne sait plus quand est-ce qu'on passe deux semaines. Parce que moi, je travaille tous les jours, Paniek.
Oui.
Contrairement aux politiques.
Contrairement aux techniciens. Elle m'a regardé ça les yeux dans les yeux alors que j'ai encore des courbatures d'avoir porté des flight case hier toute la journée.
Les yeux dans les yeux, comme Darmanin et Macron, d'ailleurs.
Les yeux dans les yeux. Monsieur Paniek,
wow,
vous
wow.
avez déjà travaillé dans votre vie.
Les yeux dans les bleus.
Pff, oh, ça va être dur.
Allez, Zidane. On parle un petit peu d'international avant de repartir sur la grosse furaxerie.
Ah, on a fini les européennes, là
on était sur Jean Lassalle.
On peut parler
des européennes. Est-ce que vous avez prévu de voter aux européennes? Oui, quand même.
Moi, j'aime bien voter, donc j'y vais par principe.
Voilà.
Ouais.
Alors, moi, il faut que je m'inscrive sur les listes électorales, mais une fois que ce sera fait, oui.
Ouais.
Alors, tu as jusqu'à fin avril, je crois, pour le faire.
Large.
Mais non, en fait, je suis déjà inscrite, il faut juste que je fasse mon changement d'adresse.
Oui, voilà, ça revient à s'inscrire.
Oui, certes.
Donc.
Ou alors, il faut que je vienne voter à Paris, c'est chiant, quoi.
Une procuration.
C'est vrai. C'est vrai. Si je le fais pas à temps, je ferai une procuration.
Tu connais bien quelqu'un qui est dans Tosurco, voilà. Mais en plus, attends, les européennes. Ah non, je sais pas comment ça se passe parce que les européennes en soi, il y a qu'une seule liste pour tout le pays. Mais non, il faut quand même que ce soit dans ta circonscription électorale.
Oui. La procuration, est-ce qu'il faut pas que tu ailles dans la mairie de ton arrondissement pour la demander?
Non.
Je sais pas parce que je n'ai jamais habité à Paris, donc je sais pas comment ça se passe.
Alors, soit tu fais par internet, soit tu vas dans ton commissariat.
Très bien.
Tu vas à la FDJ
et bonjour.
Bonjour. Alors, deux choses. Il y a un weirdo qui me suit depuis 1 km
en trottinette. Premièrement.
Deuxièmement, j'aimerais faire une procuration. Troisièmement, je vais prendre un tac au tac. Je sais pas si ça existe encore ou si j'ai une rêve des années 90. Là, attention. Un jeu à gratter, voilà. Non mais oui, donc les européennes le 9 juin, éventuellement, juste je donne une info comme ça, si vous voulez un petit peu rétrécir cet écart-là, au dernier sondage, la liste en tête est celle du Rassemblement National avec 12 points d'avance sur le deuxième qui est Macron.
Nickel.
Wow. Surtout que les européennes et le RN quoi, qui sont anti-Europe, ça fait vraiment plaisir de savoir que c'est eux qui sont en tête, quoi.
Mais c'est un bail de ils ont l'électorat qui vote.
Oui, c'est ça, ces élections là eux ils votent toujours, surtout le RN, ils votent à toutes les élections,
hein. En fait c'est encore un bail comme ça.
Et puis même Nathalie Saint-Cric, elle vote.
Eh oui, ne l'oublions pas. Et vous.
Et vous.
Et vous. Et on a d'ailleurs Reconquête qui a lancé sa liste, ça on le savait. Mais en tout cas, sa campagne, vraiment.
Ah oui.
Avec un meeting, là, il y a deux jours, principalement animé par Marion Maréchal, qui est tête de liste Reconquête, et Guillaume Pelletier, qui est le deuxième sur la liste et qui est vice-président de Reconquête.
Quel plaisir.
Et on a un meeting où vraiment, c'est-à-dire que là, c'était même plus une roue libre. Il n'y avait plus de roue. Je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose que je dis, mais c'est un saut à l'élastique dans le racisme. Parce que c'est Guillaume Pelletier a dit, en gros, qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a plus important en France que le pouvoir d'achat et le changement climatique.
Il y a les Arabes.
On est, voilà, l'islam.
Oui. Ah oui, surtout.
Waouh.
Oui, mais quand ils disent l'islam, ils pensent aux Arabes. Hein.
Oui, bien sûr.
Putain, du coup, je repense à ce commentaire qu'on a eu à la suite de Furax sur jeuxvideo.com. Et
on en parlera.
On en parle juste après, il y a une transition à faire.
Et on va en parler. Et donc, pour les Européennes, voilà. Sachez que ça pue la merde. Donc, si vous... Je sais qu'il y a des gens qui disent... ça me fait chier de voter, moi j'en ai marre, j'ai des reproches à faire.
Mais je suis pas Nathalie Saint-Cric, qu'est-ce que je fais?
Voilà.
Mais peut-être je suis que Nathalie, moi, je suis pas Saint-Cric.
Mets-toi un petit bulletin.
Mets-toi un petit bulletin pour le principe.
Pas trop pire.
Ça vous fait sortir un dimanche, voilà.
Bulletin NPA, là.
Y a une autre élection qui arrive, qui n'est pas en Europe, quoique un petit peu, jusqu'à l'Oural, c'est l'élection russe, présidentielle, bien
sûr.
Oui,
l'élection,
la fameuse élection russe.
La fameuse élection russe. Le grand meeting de campagne de Vladimir Poutine a été reporté à une date ultérieure. Quelle est la particularité de cette date?
Si je parle encore de... Non, je vais encore te faire faire biper.
Vas-y.
Bah, je sais pas, c'est pas un truc genre l'anniversaire d'Hitler encore ou un truc comme ça?
Non.
Ils en seraient tellement capables, honnêtement, que...
C'est pas leur journée nationale de la guerre ou un truc comme ça?
Non.
C'est l'anniversaire de Vlad?
Non.
C'est un rapport avec la Seconde Guerre mondiale?
Non, aucun.
La guerre froide?
Non.
Bon.
Est-ce que c'est le même jour que celle des États-Unis?
C'est-à-dire
y a les élections américaines.
Alors, c'est pas l'élection qui a été reportée.
Ah, c'est le discours.
C'est le meeting, le grand meeting de Vladimir Poutine.
En même temps que le meeting de son concurrent.
Non.
Il a pas de concurrent. Et du coup, il peut pas y avoir de meeting.
Officiellement, il y a un ou deux concurrents.
Non, mais il y en a un assez gros, quoi.
Ouais, voilà, mais...
Mmh. Ah, il est pas encore mort, celui-là, du coup.
Non.
Bah, ils peuvent pas le faire mourir maintenant, parce que...
Ce serait un peu cramé.
Ok, bah, dans deux mois.
Pourquoi il aurait pu reporter...
Un accident.
Alors, c'est pas pourquoi, c'est à quelle date.
À quelle date
et pourquoi cette date.
Un truc avec l'Ukraine?
Non.
Je pense un truc en rapport avec l'Eurovision, je pense.
Non plus.
L'anniversaire de sa maman.
Non.
Ah, on sèche la panne, on sèche.
Ça, alors, c'est pas, en fait, c'est pas une date anniversaire ou c'est pas une date qui correspond à quelque chose, c'est juste que la date a une particularité.
Elle n'existe pas.
Un 69, quelque part, non?
Quoi?
Le 6-9, je sais pas, le 6-9.
Oh, la question. Et bah ouais, c'était la réponse. En fait, c'est
la
le
question
6 septembre.
Coquine.
Et ça fait 6-9, la position des fesses.
Elle tire sur mon doigt.
Oh là là. Oh, le
finalement,
tour,
les Russes.
Prend un niveau.
Il a invité Patrick Sébastien au
Millième
Tour.
Il ne le savait pas.
C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse, déjà.
Non, en fait, cette date ne devrait pas... En fait, la date en question,
le 29 février.
Donc, non.
C'est passé, en fait.
Déjà, c'est passé, mais la date en question, finalement, on s'en fout que ce soit une date ou une autre. Le problème, c'est, on va dire, le timing par rapport à quelque chose d'autre.
Les Jeux Olympiques?
Non. Par rapport à quelque chose d'autre de très lié...
À Poutine.
À l'événement
à la Russie,
en question.
Ah, au meeting.
Ah, c'est genre le jour de l'élection.
C'est genre le jour de l'élection. Ouais.
Alors, vous êtes à deux doigts de la réponse.
C'est juste
après l'élection.
Très bonne réponse.
Mais quoi?
Incroyable.
Un petit farceur, ce Vlad.
Mais quoi? Mais j'aurais préféré le 69, au moins on aurait rigolé. Merde.
Voilà.
C'était plus absurde, mais c'était...
Ça, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal.
Non, mais honnêtement, le 69, c'était moins absurde que ça, en fait.
Vladimir Poutine compte tenir son meeting de campagne après l'élection.
Génie.
Voilà. Donc, l'élection présidentielle de Russie aura lieu le 17 mars. Donc, c'est vraiment... C'est à Saint-Patrick dans une semaine.
Ouais.
Et donc, il devait y avoir un gros meeting de campagne. Finalement, il aura lieu après. Donc, ce sera un meeting de victoire, mais il est déjà en train d'être préparé.
Je pense que c'est aussi parce qu'il y a très peu de suspense. Donc, il est en mode... On fera un petit, petit
très
point après l'élection.
Voilà. Oui, voilà. Un petit point.
Ouais.
Okay. Un petit brief.
Petite conf-call, là.
CS, combien t'aimes élection à Poutine?
Il a été élu pour la première fois en 99 pour prendre la présidence le 31 décembre 99. Ça, c'est sa première fois. Et ensuite, il a été réélu une fois. Il ne pouvait pas enchaîner deux mandats selon la Constitution. Donc, c'est Dmitri Medvedev qui a pris la présidence et qui l'a nommé Premier ministre. Qui a nommé donc Vladimir Poutine Premier ministre. Donc pendant tout ce temps-là, Medvedev était président, mais ne branlait pas grand-chose.
Oui, c'était Poutine qui dirigeait.
Et c'est Poutine qui était... Voilà. Et ensuite, en fait, pendant ce laps de temps, Medvedev a fait changer la constitution pour qu'il n'y ait pas de limite au mandat présidentiel.
Mmh.
Et là, depuis ce moment-là, donc après ça, Poutine a été réélu. Après ça, il a été encore réélu. Et là, il serait réélu pour une troisième fois.
Mmh, wow,
donc pour une cinquième fois.
Ah ouais, pas mal.
Depuis 99.
Et
non mais j'ai eu moins de plans que ça, donc c'est
un sixième mandat si on compte la période VNF, premier ministre comme un mandat, ce serait le sixième mandat si je dis pas de bêtises.
Ouais.
C'est toujours moins que le maire de Créteil.
Let's go.
Ou que le maire de d'ici les Moulineaux.
Aussi, wow. Ouais.
Vous connaissez le maire d'ici les Moulineaux?
Non.
C'est André Santini.
Ok.
C'est André Santini. Il est maire depuis quasiment 60 ans, je crois.
Ah, quand même. Parce que Créteil, c'est depuis 77.
Ah oui, mais alors je crois que André Santini, c'est même.
C'est encore plus.
André Santini, hop, je tape sur mon téléphone magique.
Vous avez
magique
une culture des maires, vous hein?
Non, je viens de voir passer un tweet, vraiment.
Ah, okay. Ah oui, d'accord. Ah non, il est maire d'ici le Moulineau depuis le 3 février 80, donc depuis 44 ans.
Donc le maire de Créteil gagne.
Créteil, il gagne.
Il est là depuis le premier Star Wars.
Oh putain, allez. C'est vrai ça.
Incroyable.
Créteil, le maire, c'est Laurent Catala. Et il est maire, effectivement, depuis le 14 mars 77. C'est vrai, ça.
C'est incroyable. Wow.
Hop. Alors.
Ah.
Info. Il y a quelqu'un qui a modifié la page Wikipédia. Souvent, ça reste
arrive
pas longtemps. Oui. Mais actuellement, il s'appelle Laurent Dictateur.
Oh.
Sur Wikipédia. Voilà, je vous montre ça.
Incroyable.
Parce que j'en parle parce que je viens de voir un tweet.
Okay.
Je,
genre, c'est trop marrant.
C'est une polémique là-dessus.
Et du coup, vu que c'est en train de tourner, des petits farceurs ont changé la page Wikipédia.
C'est
très contente d'avoir vécu ce changement. Du
c'est incroyable qu'on ait ça juste après avoir parlé de Poutine. La coïncidence est incroyable.
Tiens,
ouais. L'inspiration,
le maire de
finalement
Créteil, c'est ouais littéralement Poutine.
Littéralement Poutine, en fait.
C'est vrai qu'une guerre depuis 77... Ah, c'est beaucoup, hein,
ouais,
quand
c'est
même, je trouve. Hein. Titre personnel.
Mais il est.
Disons qu'il y a des villages où il y a le même maire depuis plus longtemps, en vrai.
Il faut aller
à
des villages.
Moyen, mais à la limite, quand t'es maire d'un village, tu vois, il y a oui quand même moins.
Moins d'enjeux.
Ouais, ouais.
Mais il n'y a pas une retraite au bout d'un moment? Je sais qu'on a fait la réforme, mais quand même.
Bah non, parce que
on c'est pas obligé c'est de la prendre, ta retraite.
Non, mais en plus, maire, c'est pas proprement parler un métier, quoi. C'est
un mot.
Oh, bah, attends, faut nettoyer,
fonction,
la, faut donner la bouffe aux gamins, faut nettoyer les vêtements.
Quand t'es maire de Créteil, c'est un métier, mais. Ouais. Ah non, j'ai pas.
Être une maire, c'est un métier à temps plein,
Aliac. Bon, Furax, ça
va ou quoi?
Alors, quel aspect de Furax vouliez-vous mettre en avant qu'on n'avait pas abordé dans la première partie de l'émission?
Il y a Nath qui a dit un truc tout à l'heure.
C'est ça, mais j'ai oublié.
Est-ce que par pitié, vous pouvez faire une lecture? Je vous en supplie, j'ai pas mon téléphone, mais sinon je vais le chercher. Genre, je sais que vous l'avez. Je sais que vous l'avez. J'aimerais qu'on commence en faisant une lecture. Et pendant cette lecture, en fait, je vais vous demander un silence total parce que c'est vraiment un discours très important, je pense, qui a besoin de s'exprimer dans un océan de bruit constant. Voilà. C'est une parole qu'on a besoin d'entendre.
Donc,
je
pour
t'en
le
prie.
Contexte, il s'agit d'un article sur la prochaine édition de Furax qui a été posté sur le site jeuxvideo.com. Où les gens
pour
ont
l'instant,
la possibilité...
je m'inquiète pas. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter.
Non, il y a aucune raison de
Et il y a la possibilité pour les personnes de poster des commentaires en dessous de chaque article.
Voilà.
Ceci est un commentaire qui a été posté.
Je t'en prie, Joule. Prends ta plus belle voix.
Voilà le genre d'événement que je ne conseille à personne. Voici les bienveillants qui stigmatisent toute une partie de la population, généralement l'homme blanc. L'unique but de cette manœuvre, prendre de l'argent à des idiots. Je n'ai pas besoin que des streameuses et des alliés aux cheveux bleus, verts et roses viennent m'expliquer comment je dois me comporter en société. Personnellement, mes parents ont fait le travail.
Bravo à eux.
Et sans rien demander en retour. Mmh. Allez faire ce genre d'événement en Arabie Saoudite, Dubaï, Iran, etc. Allez le faire où il y a des réels besoins. Pas ici, où tout est déjà acquis et accompli. Ah oui, mais c'est tellement plus facile de faire ça choquer dans un pays qui respecte les droits de l'homme. Car je n'ai pas vu ce genre de personnes bienveillantes quand les ayatollahs ont tué des femmes, enfants et hommes, il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas vu tout cela quand la Chine a importé des femmes. Car dans leur pays, il n'y en a plus assez, vu leur politique de ces dernières années. Chez moi, ce que vous faites avec ce genre... Quoi ? Ah oui, pardon. Chez moi, ce que vous faites avec ce genre d'événement, on appelle cela tirer profit de la misère humaine. Emoji 100. Voilà la génération sans vrai combat. Celle qui est plus craintive puritaine que 8 vieilles bonnes sœurs. Emoji qui rigole. À cela jouer templier de la justice sociale derrière un PC à 3000 boules et un iPhone 13. Et demander de l'argent en stream à des enfants adolescents. Là, il n'y a pas de souci de déontologie quand le petit enfant vous donne un sub ou des beats, pas vrai? Car vous êtes bien content ou contente de pouvoir stream et prendre de l'argent à des pauvres gens pour aider. Mais sur 5 euros que les gens donnent, combien d'argent arrive réellement pour les aides? Entre rien et rien. Car, comme toute organisation bienveillante, vous prenez votre part du butin.
Voilà. Ah, la part du butin.
La part du butin.
Bien sûr.
Et bien, parlons-en. Du coup, je
j'ai
pense
ici
que...
un document.
Waouh, ok, Edoui Plenel.
Les Furaxix.
Non, mais je pense que c'est bien de commencer avec ce commentaire édifiant, du coup, qui nous redonne un peu foi en l'espèce humaine.
Il présente un peu l'événement déjà.
Voilà, bah, il le présente bien. Il le présente bien. Et du coup, je tiens à le préciser pour les personnes qui ne savent pas le principe de caritatif. Donc, on est toutes bénévoles. Il n'y a absolument personne qui n'est payé dans cette association.
Personne.
Et absolument 100% des fonds ont. 100% des fonds, sans un moment d'exception, vont à l'association. Voilà, c'est tout l'intérêt.
Qu'on soutient, à savoir Féministes voilà. contre le cyberharcèlement cette année. Voilà.
Bah, et oui. puis une partie va à l'organisation de l'événement, bien sûr, parce que ça coûte de l'argent.
Alors, voilà. pour ce qui est des adhésions à l'association Furax, voilà. oui, celles-ci vont directement dans l'organisation de l'événement.
Absolument. Mais l'événement Furax, l'événement caritatif en lui-même, ce sera les fonds pour l'association. Donc voilà, bonne nouvelle.
Future cagnotte, c'est direct.
Voilà. Donc bonne nouvelle, ce n'est pas mon compte PayPal qui est actuellement sur la cagnotte.
Mais
dommage.
Ce qui est bien, c'est que
j'ai essayé.
C'est que vu que cette année, on parle de cyberharcèlement, ce genre de commentaires, ça nous montre qu'on fait pas ça pour rien.
Exactement.
Quoi. Genre, vraiment, lui qui dit ça sert plus à rien, voilà. il exemple que
c'est
non.
C'est vrai que
exactement.
Ça sert à rien
ça
en cyberharcèlement.
Allez en Arabie Saoudite, incroyable. Comme si on avait besoin d'aller aussi loin. Moi, j'ai juste à ouvrir la porte en bas de chez moi pour
oui,
des fois voir des
comme
trucs.
Comme si le fait qu'il y ait des endroits qui sont pires, ça veut dire que
mais
nous, bah
voilà,
ça sert bien
sûr.
Aux
toujours,
ouais.
toujours, bien sûr. Bien sûr.
Mais oui, la com est hyper facile cette année. À chaque fois, on a des exemples des débuts. Quoi.
Là, c'est... vraiment, juste avec 2023, en fait, il y a tellement d'exemples que... Moi, à chaque fois, on va dire que je m'acharne, mais vraiment, pour moi, les deux plus gros exemples, c'était Squeezie. Mais en vrai, je peux aussi... On me l'a fait remarquer hier et j'y avais...
C'est-à-dire, tu peux développer Squeezie...
Je peux à l'infini, mais tu veux vraiment que je fasse ça?
Non, mais juste
non, mais
les tuter.
Pour moi, en fait...
Le contexte de ce qui s'est passé, ouais.
Alors, c'est un avis personnel, mais personnellement, j'estime qu'en 2023, Squeezie, par ses productions, a mis deux femmes en danger. Dans deux émissions différentes. La première, c'était dans le tribunal des bannis. À la suite de son tribunal, son premier épisode du tribunal des bannis, il y a une femme qui s'appelle Audrey qui a pris une vague de cyberharcèlement absolument monumentale. Et si on se demande pourquoi, c'est parce qu'en fait, pendant l'épisode du tribunal des bannis, Squeezie, Gotaga et Kameto faisaient que raconter des blagues et donc ils sont face à deux gamins qui ont fait du doxing, donc quelque chose de vraiment illégal, même si c'est des gamins qui se sont fait une blague entre eux, ils ont fait quelque chose d'illégal. C'était leur responsabilité en tant qu'influenceur de donner le bon exemple et de leur dire non, là vous avez vraiment abusé. Non, ils étaient trop occupés à raconter des blagues parce qu'ils voulaient entretenir leur attitude de mec cool et c'est une vidéo qui est censée les mettre en valeur, donc ils pouvaient pas se mettre dans une position de vrai donneur de leçons et donc réellement de juge quelque part. Et donc devant leur incapacité à prendre des responsabilités, c'est une meuf du public qui a dû le faire, qui a dû se lever et dire bah moi en fait je trouve ça quand même terrible parce que là ils sont en train de raconter des blagues, les deux ils se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils ont fait et tout. Et à ce moment là les streamers ont réalisé que ah ouais merde non bah là en fait on est en train de passer pour des cons, on est trop d'accord avec Audrey et tout de ouf. Et en fait ils ont vraiment refilé la patate chaude de vraiment faire
de
attention
de ce propos là en fait.
Ouais voilà, ils ont refilé la patate chaude de donner des leçons et de vraiment juste éduquer à Audrey, à la seule meuf vraiment militante qui était dans le public, à tel point que quand c'est arrivé une deuxième fois, quand il y a eu un autre mec qui est passé, qui a dit quelque chose d'un peu bizarre, un peu problématique, là Squeezie il a même pas fait semblant, il a immédiatement dit non mais allez donnez la parole à Audrey. Donc ils sont vraiment dans un rejet constant de responsabilité et de vraiment de tentatives d'éducation.
Et de prendre la parole et de l'assumer quoi.
Et le problème c'est que c'est eux les influenceurs qu'on vient voir, c'est eux les stars entre guillemets de cette vidéo là, c'est surtout Squeezie, c'était surtout à lui de le faire. Si Squeezie avait dit les paroles d'Audrey, jamais il aurait été harcelé. Mais le fait que ce soit une meuf qui l'ait fait, tout, il y a eu un déferlement de haine contre elle monumental avec des gens qui étaient en mode elle casse les couilles, elle pète l'ambiance aux soirées, on est tous là, on raconte des blagues, on rigole et regardez, c'est encore la féministe qui fait chier parce que justement les influenceurs n'ont pas voulu le faire.
D'accord.
Donc pour moi, il y avait vraiment une responsabilité de leur part inconsciente, tu vois, c'est pas eux, ils se sont dit allez, on va la mettre en danger, mais en fait, justement parce qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités et parce qu'ils refusent de faire attention et d'avoir une lecture, une grille de lecture qui inclut le harcèlement, bah ils ont mis Audrey en danger parce qu'elle a pris des vagues de cyberharcèlement qui ont duré plusieurs jours et c'était des centaines, des milliers de tweets vraiment contre Audrey. Et si jamais ces informations personnelles avaient leak, là vraiment c'était la merde. Et ils ont là où Squeezie a fait un exploit, c'est qu'ils n'ont pas tiré les leçons de ça et ils ont refait la même chose au GP Explorer. Le GP Explorer, donc c'est l'événement de Squeezie avec les courses de voitures, trop bien. On invite des influenceurs qui n'ont jamais conduit de voiture de ce type et on fait une course avec des amateurs. Et dans le tas, il y avait plusieurs invités et une meuf qui s'appelle Manon Lanza, qui elle, pour le coup, est habituée de ce sport-là. Et un mec qui s'appelle Maxime Biaggi, qui est donc un grand influenceur. Mais du coup, forcément, Maxime Biaggi, très grand influenceur donc, de l'émission Zen. Donc tout le monde l'aime, il a un giga capital sympathie.
Il a une aura aussi.
Voilà. Il a Benji Yaora, il est en train de percer de ouf, il monte, tout le monde l'aime, tu vois. Et donc, quand il y a eu l'accident, donc il y a la course, il y a un accident entre Manon et Maxime, il y a accrochage. Immédiatement
qui amène les deux à abandonner, la course. Et dès le premier tour, c'est ça aussi qui a. Voilà.
Dès le premier tour, et truc vénère, parce que la voiture de Manon, elle est vraiment partie en ligne droite.
Dans le mur, il y a eu une ambulance, etc. Voilà. Donc et les images sont impressionnantes.
Images sont super impressionnantes. L'accident a mis vraiment un coup dur au moral de tous les autres influenceurs. Et surtout, à la seconde où Manon a cet accident, les commentateurs, il y a Kameto qui essaye sincèrement en mode je vous en supplie, allez pas harceler Manon. Donc Kameto était déjà bien conscient de ce que ça allait entraîner sur Manon. Oui. Mais en fait, parmi les autres commentateurs, il y avait Grim qui est le meilleur ami de Maxime Biaggi, qui est aussi son collègue avec lequel il fait des trucs. Et Grim, la première chose qu'il a fait, c'est trop déçu pour Maxime. Oh non, Maxime, il méritait tout. Il allait sûrement gagner.
Il y a eu beaucoup de longueur. Il y a eu beaucoup de longueur sur Maxime. Trop. Oh là là, on est vraiment très déçu pour Maxime et tout. Et c'est vrai que au fur et à mesure de ces propos-là, on n'avait pas de nouvelles de Manon. Le fait est qu'encore une fois, en effet, il n'y a pas du tout de prise de responsabilité. Il n'y a pas eu derrière de prise de parole à son sujet.
Pas assez,
sachant que. Sans surprise, elle s'est pris des vagues de haine et de harcèlement.
En fait, le problème, c'est que, sans le vouloir encore une fois, mais ça, c'est parce que forcément, ils ne sont pas renseignés sur le sujet, ça ne fait pas partie de leur grille de lecture. Ouais. En fait, ils ont tellement fait « Oh là là, pauvre Maxime », ils ont victimisé Maxime. Et en fait, ils ont fait genre que c'était la seule victime dans le truc, sans parler de Manon. Ils n'en avaient rien à foutre à ce moment-là de Manon. Ouais. Alors, ils vous justifieront ça en disant « Oui, mais on ne pouvait pas la montrer parce que, oh là là, l'ambulance, tout ça. » Non, le fait est qu'ils n'étaient pas en mode « Oh là là, ça dégoûte pour les deux. »
Tu peux ne pas la montrer et, dire, et en parler. Voilà, en fait. On espère que Manon va bien, l'ambulance est en train de la prendre.
Mais tu vois, pour un « On espère que Manon va bien », il y avait 5 « Oh là là, pauvre Maxime ».
Oui, donc, c'est ça.
Il y avait une disparité complète. Et quand tu
et
fais
pas
ça...
pas pauvre Manon, en vrai, parce que
mais
genre...
Il y en avait
pas, comme
à
si
peine,
elle avait
presque
fait
pas.
Exprès,
c'est exactement, de... presque pas. Incroyable. Et du coup, face à ça, quand t'as ce genre de situation où t'as vraiment une meuf qui... Enfin, t'as un mec qu'on estime qu'il est victime d'une grosse injustice devant des centaines de milliers de fans, des fans un peu jeunes, ils se disent « Ok, mon influx sur... il a souffert d'une injustice, c'est qui l'auteur de l'injustice ?»
Il y a des gens qui disent « influx », juste.
Ouais. Okay. Mon influx, ça se fait.
J'essaye
d'aller vite. Mais tout ça pour dire que genre, eux, en fait, ils se sont dit « mon influenceur préféré, il est malheureux. À cause de qui ? À cause de cette connasse. » Et Manon Lanza a pris le tarif de sa vie. Et genre, encore une fois, si Squeezie et la boîte de prod de Squeezie et les gens qui travaillaient autour de Squeezie avaient un peu réfléchi en mode « Ok, alors, il faut peut-être qu'on y réfléchisse, là, parce qu'on a mis beaucoup l'attention sur Maxime, on parle pas de Manon. »
Non, et puis ils auraient pu genre faire cette mauvaise gestion sur le coup, parce que c'est vrai que aussi on n'est pas sur le coup où t'es vraiment dans l'adrénaline machin et
ils ont mis du temps.
Tu fais pas gaffe.
Ouais. Après
ils ont pas fait de communiqué.
Ils ont mis leur temps fou
3 jours. Il leur a fallu environ
3 jours et puis c'était pas un communiqué, c'était genre un tweet en mode doucement.
Non, mais il y a eu 15 bonnes minutes.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que genre on a critiqué Squeezie de pas en avoir plus parlé que ça, et sa réponse a été j'ai quand même fait un stream et pendant mon stream, pendant 15 bonnes minutes, j'ai parlé de ça.
Voilà.
Alors que c'était pas un stream qu'on voulait, c'était plus genre un communiqué ou alors le stream entier consacré à ça, limite, tu vois.
Ouais.
Il a dit ça en répondant à Guillaume, du coup, MVCDLM qui était.
Oui, le fameux salut Guillaume, c'est ça, ouais.
Le fameux, oui. Salut, et qui lui-même s'est pris une vague de harcèlement, tu vois. C'est vraiment.
Qu'il y avait après la virgule.
Et oui, c'est ça. Et vraiment, genre, dès que Squeezie, qui est, genre, je pense, le plus gros influenceur de France, dès que il parle à quelqu'un, il sait, en fait, que toute sa commu va le voir. Enfin, peut-être pas
s'il
tout
parle
monde,
négativement, oui.
Bah oui, c'est ça.
Bien sûr.
Il sait que les gens le suivent. Et du coup, je suis désolée.
Et s'il le sait pas, quand même, c'est bizarre, quoi.
Non, oui, exactement. On revient exactement là-dessus, tu vois. Soit il le sait très bien et donc il sait ce qu'il fait et il est mal intentionné, soit il le sait pas, mais du coup, c'est vraiment chaud en tant que premier influenceur de France.
Depuis
son adolescence, le mec, il est là-dedans. C'est impossible de pas savoir. Et pardon, du coup, j'ai trop monopolisé la parole là-dessus, mais c'était vraiment pour dire que ces deux cas-là sont super graves parce que Squeezie n'a pas tiré les leçons de ça. Parce qu'il a fait une vidéo récemment, là, en janvier, où il explique qu'à ses yeux, les communications de crise en rapport avec le harcèlement, ça n'existe pas, qu'on peut rien y faire, que le harcèlement, c'est presque un fait un peu commun qui va avec la célébrité. Et ils ont l'air d'être vraiment dans une espèce de déterminisme, j'ai envie de dire de doomisme, mais je sais pas comment le traduire, tu sais. Genre, ils sont persuadés que si t'es influenceur, t'as de l'harcèlement, et pour les meufs, il y a de l'harcèlement, et que c'est comme ça que ça se passe, et qu'on peut rien y faire. Et en fait, le problème, c'est que c'est une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'effectivement, ils se disent, on peut rien y faire, donc ils font rien, donc il y en a tout le temps. Et en fait, quand ils essayent de faire des choses, comme ils ont rien fait pendant 20 ans, il y a encore du harcèlement. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il faut qu'ils continuent d'essayer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ouais. Mais du coup, ils essayent une fois, il y a du harcèlement, ils se disent on invitera plus de meufs.
C'est raté, mince.
Voilà.
Donc surtout, ils se rapprochent pas de. d'assaut qui gère ça. Mais comme féminisme versus cyberharcèlement, tout ça. Simplement, tu vois, mais genre, ils pourraient leur demander, nous toutes. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Nous toutes, pareil.
Donc, d'où le thème de Furax cette année, finalement. Là, quoi, tiens, voilà.
J'allais la faire pour que ce soit incroyable. tu m'as volé ma relance.
Je t'ai coupé l'herbe sous le pied.
Mais j'allais dire, mais du coup, est-ce que, selon vous, c'est important de parler et d'éduquer les gens au fait de cyberharcèlement et par exemple de financer et de soutenir des associations qui luttent contre ça.
Mais voilà, par exemple.
Ah bah tiens.
Pas trop, je sais pas. Si...
Non mais au-delà de se dire juste c'est important, on essaie de penser ça sur tous les types de publics. C'est-à-dire que, comme on vient de le voir par rapport à ce que Nathalie a dit, il y a aussi des grilles de lecture qu'il faut corriger. Qui sont celles des créateurs et des créatrices de contenu. Y a celles des communautés qui les suivent, parce que des fois, il faut aussi que les gens comprennent qu'il y a des choses qui ne se font pas, que comprendre aussi la masse, par exemple, que ça peut représenter une vague de cyberharcèlement, ce genre de choses, essayer de matérialiser les choses. Et puis après, il y a aussi des publics moins avertis et des cyberviolences qui sont méconnues par les parents, par les enseignants.
Oui, parce qu'il y a l'aspect scolaire aussi, qui est, duquel nous, on est assez... assez éloigné de
maintenant,
pardon, on est tous à peu près, enfin
ouais,
là
pourtant,
en tout cas autour de cette
que...
table, on a tous et toutes la trentaine, et c'est vrai qu'on est genre, on a clairement, ça fait trop longtemps qu'on était à l'école et on n'a pas non plus des enfants qui sont à l'école.
Donc on est un peu entre les deux, mais je pense qu'on essaie aussi de penser à ça. Le public de Twitch, il y a quand même une grande part qui est assez jeune et on veut leur parler aussi, quoi.
Ouais.
Donc c'est aussi.
Par contre, on est dans une tranche d'âge où, en tout cas, moi, je connais beaucoup de profs. Donc
oui,
c'est
par
aussi,
exemple,
c'est aussi un sujet
du
point de vue des profs et du corpus, enfin comment dire, du corps enseignant et
ça a plus à voir avec le fait que t'es un gauchiste plutôt que le fait que t'as 30 ans, je pense.
Sans doute.
Oui.
Je pense que les deux combinés font que la
Parce
masse
que les,
de profs autour de moi.
Les trentenaires qui bossent dans la finance, je pense pas qu'ils connaissent beaucoup de profs, tu vois.
Si, des profs de finance.
Des profs dans le privé, oui.
Ouais, voilà, dans le privé, oui.
Enfin, voilà. Mais écoutez, vaste sujet à suivre, hein, du coup, Furax.
Les
du...
5, 6 et 7 avril.
Est-ce que je peux rajouter une chose?
Ah, ben attends.
Cette année, on co-organise Furax
c'est
avec
vrai.
L'association Afro-Gameuse.
C'est vrai que j'en ai pas parlé. My bad.
J'arrête de le rajouter. Elles se sont joints à l'organisation avec nous cette année, sachant qu'elles avaient déjà été là sur la première édition en tant que participantes plutôt sur leur chaîne. Cette année, on a aussi à cœur de donner plus de place en fait à des créateurs et créatrices de leur collectif, hein, de leur asso, qui vont streamer sur leur propre chaîne.
D'accord.
On a aussi dans le line-up au final des créateurs et créatrices qui sont peut-être moins connus.
Ouais.
Mais Furax, c'est aussi ça, c'est donner une plateforme à des gens qui en ont pas encore. Et mettre en lumière d'autres profils qu'on voit pas tout le temps sur Twitch. Donc voilà.
On a les dévalideuses aussi. Du coup.
Et on a aussi l'association des dévalideuses qui viendra s'exprimer sur les sujets qu'on a cités, sur les cyberviolences et avoir aussi une parole anti-validiste. Donc ça va être très stylé également.
Oui.
Afro Gameuse, on en avait parlé dans l'épisode avec Mama Paprika, l'épisode 2, je crois que c'était,
c'était
celui qui a
après,
suivi le pilote. Et Mama Paprika, évidemment, sera largement
Absolument.
De la partie.
Elle fait partie de l'organisation.
Mais oui, sur Furax. Et donc, on la salue. Et voilà. Et puis, je vous souhaite déjà bon courage. Parce
merci,
que.
Merci.
Quand on organise des événements comme ça, il y a toujours. C'est très épuisant et on a la satisfaction quand on arrive à l'événement, sauf que l'événement est encore plus épuisant et en fait tout va décompresser après. Donc bon courage d'ici à l'événement, bon courage
Merci.
Pour l'événement et bon courage pour la décompression.
Ouais, la décompression.
J'ai pris des jours de congé pour après Furax.
Eh bien, figure-toi que j'enchaîne immédiatement avec le Frames personnellement.
Yes. Nickel.
Let's go.
Donc voilà, donc du 5 au
7 avril.
Du 5 au 7 avril.
Ouais, sur 5
au 9,
j'allais
nous rajouter
des jours.
Vous allez sur onestfurax.fr.
Ouais.
Pour avoir le hub central et puis après ça se passe sur Twitch et puis de toute façon si vous écoutez ce podcast vous savez que tout sera dans la description du podcast
Bien
quelle
sûr.
Que soit votre plateforme évidemment
absolument
Merci C'était bien cool. Malgré la fatigue, j'ai réussi à tenir.
Ouais, non, mais très, 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 très bon.
Merci à toi de nous donner une plateforme pour parler de Furax.
Déjà. De ouf. En plus, je voulais finir avec un truc un petit peu plus léger, puisque là, on a bien parlé cyberharcèlement. Mm-hmm. Cette année aussi, Furax, on a prévu donc plein de tables rondes et tout, éducation en ligne et tout ça. Mais comme on sait qu'on a quand même des sujets qui peuvent être un peu lourds, entre temps, il y aura aussi plein de mini-jeux. Comparé à l'année dernière, il y aura encore plus de jeux que plus de fun, ouais, que j'essaye de mettre. Je me suis mis dessus, genre vraiment, j'en fais mon objectif. Donc, vraiment des quiz, des trucs vraiment bêtes ou vraiment drôles avec en plus des invités, mais incroyables. Je veux pas spoiler les invités, mais on a vraiment des gens du coup qui vont venir juste pour ça, juste pour les jeux,
pour le fun,
juste pour la rigolade. Donc, on a prévu vraiment des petits panels vraiment un peu en mode jeu plateau, jeu avec des équipes, avec des points et tout. Et ce sera fil rouge tout au long de l'événement. Let's et du coup, voilà, il va y avoir du fun à Furax parce absolument que les féministes elles savent s'amuser aussi.
Trop bien, et ce sera avec
non plus. Absolument, oh là, non, présentateur principal. Non, tu rigoles, par contre je vais vraiment appeler un truc question pour une championne.
Allez.
Non, je rigole parce que je me disais, je savais que j'allais biper le nom, mais alors là, l'indice qui a suivi.
Ah merde.
Intense, mais c'est pas grave, c'est très drôle.
Okay.
Ben écoutez, merci à vous toutes et merci toutes les personnes qui ont écouté cet épisode.
Alors,
bien
c'est
évidemment,
nous toutes, en fait, l'association.
Elle a dit qu'elle était là pour faire des blagues de merde.
Vous toutes, l'association féministe, c'est nous toutes.
D'accord.
Ouais.
Allez,
au revoir.
Au revoir.
Salut. Oh,